Bon midi, bienvenue à l'émission Dans Jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Très heureux d'être en votre compagnie encore une fois avec Pascal CV. C'est toujours un bonheur de faire de la radio avec vous. On en fait pas mal cette semaine avec le remplacement dans Marceau le matin. Moi, Pascal et Max. Max vient de vous laisser avec un excellent point de Max de 10h à midi. Nous, on est là de midi à 14h comme à l'habitude. Et par la suite, ce sera le retour de Gravel de 14h à 18h. Un petit Marceau le soir pour ceux qui s'ennuient. Un petit Marceau le soir où on va justement remettre... ça va être un épisode qui a déjà été joué. En attendant, 418-971-1011 pour nous joindre. Vous le savez également, la web radio sur le blvd.fm. Vous pouvez également aller réécouter nos meilleurs moments. Parmi des bons moments qu'on a eus ce matin dans Marceau le matin, je voudrais aller réécouter l'entrevue avec Maïté Blanchette Vizina. C'était très bon, son bilan, justement, de la dernière session parlementaire. Stephen Blaney est avec nous aussi pour nous jaser de ce budget-là de la ville de Lévis. Et excellente chronique avec Farnel Morisset et Lambert Drainville sur les 500 $ de Pablo Rodriguez. Ben oui, grosse histoire encore une fois autour du financement de la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez. Également, n'oubliez pas l'application Boulevard 102.1 sur App Store, Google Play Store. Très important, téléchargez-les parce que dans le temps des fêtes, souvent, ben, on s'en va à l'extérieur, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis. Vous allez pouvoir nous écouter toute la période des fêtes. On a une superbe programmation pour vous également. Et twitch.tv/blvd/fm. Pascal CV, comment vas-tu?
Salut, ben je vais bien. Excuse-moi, je ris parce qu'on se transforme dans tout ce qu'on peut.
Et voilà, tu viens de faire un travail de technicienne extraordinaire.
Oui. Je courais la technique finalement, trouve une solution.
Même Victor t'applaudit.
Ben, c'est grâce à lui qu'on est capable de se débrouiller en ce moment parce que ben, c'est un collaborateur aussi de Marceau le soir, fait que j'ai pu donner un lien finalement qu'on utilise ailleurs.
Mais, c'est super.
Ça va très bien. Écoute, on est dans les doubles, puis à chaque émission qu'on fait, l'actualité évolue. On ne peut pas demander mieux. Par contre, quand on vient qu'à parler des déboires du Parti libéral ou qu'on vient à parler de François Legault qui se met un pied dans la bouche, ou qu'on vient à parler du fameux lexique d'interdiction au niveau de certains mots entre les murs de l'Assemblée nationale, il y a des choses que je choisis que je préfère, puis c'est le lexique.
Hey, Pascal, on va aller faire un petit tour, voir à LCN. Ah non, OK, on n'ira pas. Ça vient de terminer parce qu'on a justement un journaliste de TVA qui est devant la porte du bureau de Monsef Déragi. Donc,
oui,
on va attendre
une réaction.
Oui, on va attendre une réaction de Monsef Déragi. On sait, Monsef Déragi, il n'est pas trop Pablo Rodriguez. Hein. Il ne s'est pas positionné contre son chef, mais il ne s'est pas positionné pour non plus. Donc, ça va être intéressant de voir la réaction.
Ne pas se positionner, parfois, c'est donner un peu la réponse en politique. Je ne sais pas si notre invité va être d'accord avec nous, mais oui, Monsef Déragi, qui est quand même une tête importante du Parti libéral, qui ne doit pas la trouver drôle là, que le parti soit dans l'eau chaude comme ça.
Pas du tout. Avant d'aller rejoindre Victor Henriquez, qui remplace Antonine Iaccarini dans le caucus. Parle-nous donc de ça, là, le nouveau scandale autour de Pablo Rodriguez, les enveloppes à 500 $, puis quelques autres petites manchettes aussi, les buts de neige qui font jaser.
Oui, je commence avec ça parce qu'on a eu une réaction de François Legault. Bien, si vous pensez que c'était une farce depuis ce matin, non, les buts de neige devront être réglementés dans les écoles. Sinon, on porte un casque. Le premier ministre François Legault trouve que c'est des consignes qui font pas de sens.
Ben oui.
La ministre Sonia Lebel, qui est sa ministre à l'Éducation, a invité directement les directions d'école à exercer leur jugement. Par contre, dans ce dossier-là, ce qu'on semble comprendre, c'est que c'est une histoire peut-être d'assurance qui est en sous-couche de tout
Exactement.
Ça.
Exactement.
Donc, est-ce qu'on est capable d'être assuré comme il se doit si jamais il arrive incident, accident avec le fameux jeu du roi de la montagne? Bien là, la question se pose. Donc, le politique peut bien trouver ça absurde, mais si c'est une façon d'être certain d'être capable d'éviter une poursuite coûteuse puis de ne pas abîmer encore plus les finances des centres de services scolaires, bien c'est peut-être le cas du pourquoi on en parle aujourd'hui.
Le DG des centres de services scolaires a dit à Mario Dumont, en entrevue dans l'émission de Mario Dumont ce matin, c'est une conseil qu'on ne donnera pas, mais Mario Dumont n'arrêtait pas de répéter « Ouais, mais les assurances le veulent. » Donc, il y a quand même un certain danger de ne pas respecter cette consigne-là, même si on la trouve tous absurde. Là.
Au terme de cette conversation gouvernementale, bien, c'est de dire qu'on invite à exercer le jugement au niveau de la direction, comme pour toutes les activités extérieures. L'important, c'est que les élèves puissent jouer dehors, profiter de l'hiver dans un environnement adéquat et que ce ne serait pas une question autre que le gros bon sens. Voilà ce que Sionel Lebel avait à dire aujourd'hui. Si on lit un petit peu plus les technicalités de cette nouvelle qui fait tant jaser, c'est que la hauteur de la butte dans une cour scolaire auquel les enfants ont accès devrait se situer entre 1,8 et 3 mètres, avec une pente d'environ 25 % sortez le compas, puis une zone de remontée et d'attente qui devrait être identifiée.
Mm-hmm. En autant que ça ne soit pas une remontée mécanique gérée par RCR, on est correct.
Oui, bien déjà, on a de l'avance. Si les conditions ne peuvent pas être respectées, c'est un casque que les enfants doivent se mettre. Alors, peut-être qu'on va ajouter ça sur la liste scolaire en début d'année.
Exactement.
Après, on va réglementer quel casque on peut avoir, ouais. Avec quelle sangle. Et... Non, mais pour vrai, je comprends les parents d'être un petit peu submergés aujourd'hui par cette direction-là.
Clairement. 500 $ à Pablo Rodriguez, là, c'est un scandale qui a eu lieu dans une maison.
Oui, bien, c'est ce qu'on apprenait ce matin. Je pense que c'est la grosse nouvelle du jour. Campagne de Pablo Rodriguez, des enveloppes de 500 $ comme tu disais, en comptant, en argent comptant, pour rembourser une vingtaine de donateurs. On dit des gens qui se connaissaient, qui se sont rassemblés dans une maison et on aurait récolté en fait de l'argent en termes de dons, puis on les aurait remboursés directement en argent à cash lors d'une soirée de financement. C'était en avril dernier, donc Bureau d'enquête de Québécois qui a mis au jour des événements qu'on dit troublants dans ce cas-ci. Vous savez, là, c'est illégal de faire ce genre de choses-là. Organisateur de l'événement, c'est un homme d'affaires qui est fortuné. Mm-hmm. Il a promis, en fait, de dévoiler certaines informations si on gardait l'anonymat, ce qu'il a fait. Donc, dévoiler et on garde son anonymat. Il a accepté de revenir sur le déroulement de la dite soirée. C'est pour ça qu'on a toutes les informations. L'homme d'affaires a donc décidé qu'il allait recevoir une enveloppe bourrée de billets d'argent en échange de contributions des gens qui étaient à l'intérieur de la maison. Une vingtaine d'enveloppes qui a été distribuées pendant l'événement de financement. On corrobore cette version-là avec d'autres sources. Déroulement de la soirée qui remet donc en question la légalité de près de 10 000 $ qui a été amassé par l'équipe de Pablo Rodriguez, qui est finalement devenu chef du Parti libéral.
Et on va immédiatement en discuter avec Victor Henriquez, qui est en remplacement d'Antonine Iaccarini dans le caucus. Victor, comment vas-tu?
Ça vient bien, Jeff. Salut, Pascal.
Wow. Victor, une autre tuile qui s'abat sur la tête de Pablo Rodriguez. Ça fait plus de sens. Il faut qu'il quitte. Là. Il ne peut pas demeurer en poste.
C'est drôle parce que tu disais, Pascal, que c'est un homme fortuné. Puis je me disais, hey, comme quoi tu peux être fortuné et avoir aucun maudit jugement. c'est absolument extraordinaire de voir cette histoire-là ressortir. Puis quand je parle de manque de jugement, c'est qu'on dirait qu'il n'y en avait pas dans le temps, il n'y en a pas plus aujourd'hui. Puis je vais vous dire pourquoi. Toute cette histoire des remboursements de dons, c'est quelque chose dont on a entendu parler à de nombreuses reprises dans le monde politique. C'est arrivé au municipal, c'est arrivé au fédéral, au provincial, des gens qui faisaient donner leurs enfants, des fois même, des choses comme ça. J'ai entendu ça partout, puis il me semblait qu'on avait passé le message qu'on n'avait pas le droit de rembourser un don à un parti politique. Ça a bien de l'air qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé le mémo puis qui continuent à faire des choses comme ça. Mais en plus de ça, cet homme d'affaires-là a décidé d'aller en parler aux médias en protection, en disant « je vais protéger mon anonymat, mais je vais en parler aux médias ». Moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà à ce moment-ci, il y a une plainte qui a été envoyée à Élections Québec. Il y a du monde qui fait au Parti libéral, c'est qui cet homme d'affaires-là? Il y aura enquête du DGEQ, j'en suis convaincu. Puis attendez-vous à ce qu'il y ait des amendes en arrière de ça et peut-être même des mesures supplémentaires qui seront prises comme cet homme-là qui a commis un geste absolument inacceptable. À ce moment-ci, ce que ça amène aussi, c'est que Pablo Rodriguez, et d'ailleurs l'homme d'affaires le dit, n'était pas au courant de la situation. Mais bien entendu, il subit ce manque de jugement autour de sa campagne à la chefferie. Et tu disais, Jeff, il doit partir. C'est vrai qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, moi, je continue à penser une chose. Vous savez, lorsqu'il y a une personne qui est dans une situation comme celle-là, il faut faire attention à ce que le changement de tête ne vient pas effacer la crise. Alors que dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il y a encore de la lumière qui doit être faite. Et moi, je pense qu'on doit encore, chez les libéraux, s'assurer de nettoyer toute cette situation-là au maximum. Que Pablo Rodriguez parte aujourd'hui ou qu'il parte le 8 janvier, entre vous et moi, ça ne fait absolument aucune différence dans la politique québécoise ou au Parti libéral. Je pense qu'il y a vraiment un ménage majeur à faire autour de cette campagne-là. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que les libéraux ont passé 7 ans à essayer de nettoyer leur réputation. Mm-hmm. à dire nous sommes un parti qui a compris, qui a changé. Parce qu'à l'époque de la commission Charbonneau, rappelez-vous, il n'y a pas eu d'élus qui ont été accusés, mais il y a eu du monde qui sont passés au tordeur, qui
On
sont passés
commençait,
devant
on
la commission.
commençait à s'en sortir, entre autres, avec le passage d'une Marois Risky qui, auprès du public, des électeurs dans ce cas-ci, avait bonne presse. On commençait, c'était même pas fait, là.
Et ça nous pose la question suivante. Est-ce que la marque libérale est entachée à jamais? Puis très sincèrement, j'ai hâte de voir les sondages des prochains mois. Moi, je vous dirais que probablement que c'est quelque chose auquel on va pouvoir répondre aux alentours du mois de mars. Je m'attends sincèrement à ce que Pablo Rodriguez quitte d'ici la fin du mois de janvier. Je ne pense pas qu'il puisse rester. Là, c'est sa course au leadership qui est remise en question.
Pourquoi il reste
Peut-être que
encore?
si
Victor, pourquoi il
il
reste
reste encore
encore?
parce qu'il ne veut pas donner l'impression qu'il est coupable, Pascal. Le problème ici, c'est que s'il s'en va puis qu'il dit OK, c'est beau, je prends tout le blâme, c'est moi l'imputable, ben c'est comme si tout ce qui se disait et toutes les rumeurs étaient vraies. Il faut quand même se rappeler qu'en ce moment, oui, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vrai parce que l'homme d'affaires en atteste, mais il y a plusieurs choses qui sont encore au stade de rumeurs. Donc je pense que c'est pour ça qu'il reste en poste. Il s'obstine, disons-le, à rester. Mais je pense que ça devient inévitable. Mais j'ai hâte de voir comment les Québécois vont juger, même s'ils quittent. Parce que j'ai l'impression qu'il est fort possible que la marque libérale soit entachée à tout jamais et qu'on doive, chez les libéraux, se poser la question sérieusement à dire, est-ce qu'on peut continuer à exister alors qu'on est incapable de faire une course à la chefferie sans qu'il y ait du fling-flang?
Est-ce qu'on peut encore exister sous le nom du Parti libéral et c'est gros ce que tu amènes là, Victor? Pour revenir à Pablo Rodriguez, t'sais, Pablo Rodriguez est imputable de deux choses. Les 1 000 $ distribués à sa gang de bénévoles avec l'argent qui restait dans les coffres, puis le 20 000 $ donné à sa femme en loyer pour le local. Pour les Brownies, les 500 $, bon, il dit qu'il ne le savait pas. Mais tu sais, ça fait tellement de choses qui tournent autour de lui qu'à un moment donné, c'est un peu. Puis je fais beaucoup le comparatif avec ce qui s'est passé avec sa clique. T'sais. C'était dur pour François Bonnardel et Geneviève Guilbeault de nous dire: Ouais, j'étais pas au courant. T'sais, quand je n'ai pas de souvenir, sort 41 fois de la bouche de Geneviève Guilbeault, on la croit pas.
Le problème, c'est que s'il y a eu du fling-flang dans sa course, sachant qu'il a gagné avec un petit peu plus que 50 % des voix, ben, ça remet en
Mais
question
oui.
la crédibilité même de cette course-là.
Mais oui.
Mm-hmm.
Puis
Là, son
le
problème, il est
valeureux
là.
gagnant aussi.
C'est le valeureux gagnant. Moi, je pense que la seule façon, peut-être, je dis bien peut-être, hein, de se sortir de ça, c'est d'annoncer rapidement qu'il va se soumettre à un vote de confiance lorsque le rapport du juge Fournier sera déposé. Parce que ce serait une façon de dire, regardez, je pense que le choix des membres était clair, suffisamment clair pour que je retourne devant eux.
Question pour toi, Victor. Admettons, bon, il quitte, on n'a plus de Pablo Rodriguez à la chefferie du Parti libéral. Toi, mettons, tu jases souvent avec des ex-politiciens, avec des politiciens actuels, avec des politiciens futurs. On veut-tu se coller à une bannière libérale si on se lance en politique? On veut-tu se coller à la chefferie d'un parti comme celui-là où c'est dangereux de se brûler?
Ce qui sauve le Parti libéral en ce moment, c'est la crainte très forte des fédéralistes de ne pas avoir de voix en cas de victoire du Parti québécois. Je te dirais que ce que j'entends beaucoup plus en ce moment-ci, au-delà de l'inquiétude de ne pas gagner la prochaine élection, c'est de se dire, hey, ce serait qui le chef du camp du non s'il arrivait ça? Je vais vous donner un nom qui circule. Et ce n'est pas une rumeur, je vais appeler ça le fantasme des libéraux. Les libéraux me disent que le seul qui peut sauver les Bob s'appelle Guy Cormier.
Ah
Je reviens sur
ouais.
le mot fantasme. Hein?
L'ex-PDG de la CAI du Mouvement des Jardins.
Exactement. Et je reviens sur le mot fantasme, parce que je ne pense pas que Guy Cormier soit intéressé à y aller. Je n'ai pas posé la question et je n'ai pas de contact avec lui. Mais c'est vrai qu'il est le seul qui aurait ce profil à la Mark Carney de dire j'arrive avec une mission tellement forte et une crédibilité tellement forte qu'elle vient remplacer la crédibilité perdue du Parti libéral par une crédibilité personnelle qui est hors de tout doute pour quelqu'un qui ne vient pas du milieu politique en plus.
Chose certaine, ça magazine des électeurs comme pas possible dans d'autres partis. Éric Duhaime, il y a 1 heure, qui écrivait: Chers sympathisants libéraux, le Parti libéral du Québec ne vous mérite pas. Dissociez-vous de ce fling-flang. Vous ne voulez pas de référendum. Vous ne voulez pas de corruption. Vous êtes favorable au retour à l'équilibre budgétaire. Vous souhaitez des baisses d'impôts. Vous favorisez l'addition du privé en santé pour améliorer les soins. Vous comprenez qu'il faut réduire la taille de la fonction publique. public. Vous respectez davantage les droits civiques et les libertés individuelles. Vous êtes d'accord avec le... ça continue. Avec l'exploitation de notre gaz naturel pour enrichir le Québec. Le Parti conservateur du Québec vous ouvre ses portes et ses bras.
Et Victor François Legault a fait la même chose hier quand il a dit « Ben non, mais là, le Parti libéral n'est pas crédible. Le PQ nous amène à un référendum. Puis moi, j'en veux plus de référendum. Je veux mettre l'économie du Québec en premier lieu. Donc, votez pour moi. » Alors là, tout le monde se déchire, ces électeurs libéraux-là qui traînent, Pascal.
Vous savez quoi? Je vais donner plus de chance à Éric Duhem qu'à François Legault. Je vais vous dire pourquoi.
Ah oui,
François Legault, pour la moitié des libéraux, François Legault, c'est un souverainiste déguisé en autre chose le temps qu'il y a un référendum. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'il entend souvent. Pas sûr que les fédéralistes lui fassent entièrement confiance sur sa métamorphose. Mais ça m'amène sur le sujet d'Éric Duhem. C'est intéressant parce que j'avais le goût d'en parler avec vous ce matin d'Éric Duhem.
Oui, parce que tu voulais parler des gaz naturels, Victor, également.
Les gaz naturels, mais cette déclaration-là, elle nous montre justement l'espèce d'autoroute qui s'ouvre devant Éric Duhem. En ce moment, c'est le fédéraliste le plus actif et désolé de le dire comme ça pour les libéraux qui nous écoutent, le plus crédible sur la scène politique actuelle.
Mais par la défaillance des autres.
À cause de la défaillance des autres. Mais ultimement, puis tu sais, Pascal, on a déjà eu des discussions sur Éric Duhem aussi, est-ce que ça lui prenait pour passer à un niveau supérieur? À ce moment-ci, Éric Duhem a une autoroute devant lui pour dire « Je suis celui qui incarne le nouveau fédéralisme ». Il l'a fait dans le comté d'Arthabasca d'ailleurs. Et justement, de ramener des idées plus que le Parti libéral défendait avant. Et cette idée, par exemple, du gaz naturel, il faut s'en rappeler. C'était l'idée de Jean Charest en 2003, avec les fameux gaz de schiste. Parce qu'on disait, on va aller fracturer le sol québécois parce qu'on a une réserve extraordinaire. Pour les gens qui nous écoutent, c'est 200 ans de gaz naturel qu'on aurait dans le sous-sol québécois. Alors ça, c'est des idées qu'on aurait vu les libéraux défendre à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est Éric Duhem qui les porte. Ça va être intéressant de voir comment il va se positionner parce que, je vous le dis, il y a un potentiel de croissance absolument inattendu pour lui.
En effet, c'est une très belle analyse, Victor. Il y a beaucoup de noms qui ressortent aussi à l'intérieur des libéraux par nos auditeurs. On dit « Ramenez-nous Marc Tanguay » parce que Marc Tanguay était très aimé comme chef par intérim. Et il y a Monsef Deragy aussi. Est-ce que c'est deux personnes qui pourraient venir sauver le parti temporairement?
C'est deux parlementaires qui ont une très belle cote parce qu'ils ont du contenu et de la compétence. Hein, Monsef Deragy a d'ailleurs été choisi par ses collègues comme parlementaire de l'année cette année. Donc c'est
et il a été caché par Pablo Rodriguez, là, je le rappelle.
Il a été gâché par Pablo Rodriguez, Jeff. Hein, on se rappelle que Pablo Rodriguez est arrivé à contredire son député le plus populaire à ce moment-là. Ça fait partie aussi du pourquoi il est dans la situation qu'il est aujourd'hui en passant. Hein? Parce qu'il y a du monde qui ont tendance à le lâcher rapidement. Il est arrivé rapidement en lâchant ses propres députés. Mais le problème que ces deux députés-là ont, pour revenir à ta question, Jeff, c'est qu'ils ont un déficit de notoriété. Et le problème du déficit de notoriété, c'est qu'à 9 mois d'une élection, pour être capable justement d'attirer des candidats vedettes, il faut que la notoriété soit assez haute pour qu'ils soient plus vedettes que les candidats que tu veux amener. Le problème de Monsef Deragy et de Marc Tanguay, il se situe à ce niveau-là. Les Québécois les connaissent peu. Pour ceux qui suivent la politique, oui, mais pour les autres, ça peut être compliqué.
Ça peut être compliqué, certainement, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu perdus, bien, encore plus que tout ce qu'on disait il y a même un an. Pour plusieurs, Pablo Rodriguez, en ne sachant pas, est incompétent, mais en sachant, bien, finalement, il n'est pas transparent, il est menteur, puis dans une continuité sombre du Parti libéral. Donc, c'est pas une option. François Legault semble pas une option pour tout le monde non plus, par tous les déboires de la CAQ que l'on a connus. Pour certains, PSPP n'est pas une option parce qu'ils souhaitent, en fait, la souveraineté. Et pour d'autres, ben, c'est Éric Duhem qui n'en est pas une pour leur raison aussi. Victor Henriquez, loin d'être facile, la politique provinciale?
J'ai toujours dit la politique, c'est un sport extrême. Hein? Et ça nous le démontre à ce moment-ci de façon ultra claire. Demain, le 17 décembre, ça va faire un mois que les libéraux sont empêtrés. Puis rappelez-vous qu'il y a un mois, on disait que Pablo Rodriguez était proche du PQ et qu'on avait une course Parti québécois, Parti libéral. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il reste 10 mois avant l'élection. Et dans une année préélectorale, avec des élections à date fixe, même s'il y a des rumeurs comme quoi François Legault pourrait devancer, très honnêtement, je serais extrêmement surpris qu'il devance. Extrêmement surpris. 10 mois, c'est une éternité. Vous allez voir, non pas de l'eau couler sous les ponts, mais des torrents d'eau qui vont couler sur les ponts de la politique québécoise. Ce sera intéressant à suivre, mais je suis incapable à ce moment-ci de vous dire sur qui je parierais comme candidat à la prochaine élection, autre que PSPP. Et peut-être François Legault, je commence finalement à croire ce qu'il nous dit depuis le début de l'été, finalement, qu'il veut rester.
On le rappelle, François Legault en studio avec nous aux alentours de 8h20 demain matin dans Marceau le matin. Victor Henriquez, les buts de neige. T'es-tu aussi fâché que moi puis Pascal CV de dire « Ouais, au coup d'heure, nos enfants peuvent plus s'amuser au Québec. C'est quoi cette affaire-là? »
C'est complètement ridicule. Puis ça m'a rappelé, je me suis dit, quand j'ai vu la nouvelle ce matin, j'ai fait comme « Hey, il n'y avait pas des spécialistes l'an dernier qui ont dit que c'était bon pour nos enfants de faire des jeux risqués? » Puis là, tu sais, moi, il faut que je me parle, hein, parce que je fais partie de la génération papier à bulles. Tu sais, nous, on aimerait emballer nos enfants dans du papier à bulles, les envoyer dehors, leur mettre des puces électroniques pour savoir où est-ce qu'ils sont en tout temps. Là, tu sais, j'assume. Je suis de cette génération-là avec les enfants. Il faut que je me parle à chaque fois qu'ils vont jouer dehors. Mais je suis content qu'ils y aillent. Tu sais. Puis là, je vois que je me dis, hey, mon pauvre directeur d'école là, va devoir sortir dehors, aller mesurer avec son tape à mesurer la butte, savoir si elle fait 3,20 m ou 2,49 m. C'est complètement ridicule. Et après ça, j'ai lu la nouvelle, puis je me suis rendu compte que c'était une question d'assurance. Mmh. Et là, ce que je trouvais ridicule m'a mis en beau tas, comme on dit. Parce que je suis désolé, mais les assurances ne devraient pas être ce qui guide comment est-ce qu'on gère nos enfants dans les écoles. Je comprends que les assureurs veulent payer le moins possible. Et moi, j'étais curé de payer des assurances dans la vie, en général, dans tous les secteurs, pour que finalement, à chaque fois qu'on réclame, on se fasse dire qu'il faut prendre de nouvelles mesures pour ne pas réclamer.
Ou avoir toutes les factures, ou même de des vêtements usés d'il y a 10 ans parce que c'était dans la valise perdue quelconque pour avoir la somme réclamée. Mais les assurances, c'est une chose. Mais si on a besoin de s'assurer autant, c'est fort probablement parce qu'il y a eu poursuite parentale à un moment ou à un autre sur le fait qu'un enfant a été blessé dans une cour d'école comme il se faisait il y a plusieurs décennies puis qu'on réglait entre nous.
C'est possible aussi. Et tu sais, les Américains sont d'ailleurs un beau modèle là-dessus parce qu'ils poursuivent à peu près tout le monde et n'importe quoi pour n'importe quoi, justement. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans ce genre de ridicule au Québec. Une des forces qu'on a, c'est justement d'être des gens peut-être un peu plus raisonnés. Hein. Je comprends que les assureurs soient prudents, mais à un moment donné, il va falloir trouver de l'équilibre. J'étais content d'entendre la réaction de François Legault ce matin. D'ailleurs, qui a une bonne fin d'automne, François Legault. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous trouvez, on retrouve le François Legault de la pandémie là, qu'on trouvait naturel, puis très à l'aise.
J'ajoute un peu
de nuance.
Mais j'ajoute un peu le fait que, un, il n'y a pas le choix. Deux, il continue de s'élever au-dessus de ses ministres. Pour moi, ça ne fait pas un leader fort de son leadership parce que normalement, ben, tu marches à côté de ton monde et non en face, en avant, à essayer de recoller des pots cassés que toi-même te crées, veux pas. Puis l'autre affaire, c'est que je me dis, il est aussi un petit peu victorieux de la défaite des autres. Fait que je ne lui donne pas à 100% cette superbe fin d'automne.
J'ai hâte d'avoir ton ressenti demain après que vous le rencontriez. Oui. Justement, vous le recevez à 8h20.
J'ai peur de le fâcher.
Je dis ça parce que ben, moi, j'ai trouvé que là-dessus, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait la voix justement du parent. J'ai entendu un premier ministre qui a dit ce que je pensais devant la nouvelle, avec une ministre Sonia Lebel qui demande au centre de service scolaire et aux directions d'école de faire preuve de leur propre jugement. J'aime le fait qu'on fasse confiance à nos directions d'école. Gérons l'assurance du bord administratif. La ministre pourra s'en occuper. Je suis sûr qu'elle a les compétences pour le faire. Mais j'espère que les directions d'école ne vont pas se mettre à mesurer. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Et pour vrai, là, à un moment donné, est-ce qu'on peut commencer à laisser nos jeunes prendre des risques? Sinon, imaginez le genre d'adultes que ça fera. Mm-hmm. Ils auront peur de tout. Et le risque, c'est le droit à l'échec. Hein? C'est le privilège qu'on se donne de se tromper, de tomber, puis d'apprendre à se relever. Moi, j'espère qu'on va s'assurer de ne pas vivre ça. Puis, mon Dieu, c'était le fun de jouer dans les buts l'hiver. Imaginez, c'est à 3 mètres, c'est pas mal moins le fun.
J'adore ce que tu viens de dire, Victor, que le risque, c'est aussi le droit à l'échec. Et oui, faut perdre, faut échouer pour apprendre. Et c'est comme ça. Moi, je suis un coach de sport, puis c'est comme ça. Derrière chaque défaite, il y a un apprentissage, puis ça permet à l'équipe de devenir meilleure. Donc, je suis tellement d'accord avec toi. Pascal parlait des ministres de François Legault, et ça m'amène à te parler de Lionel Carman. François Legault, hier, dans son entrevue avec Paul Larocque, a ouvert la porte à un retour de Lionel Carman, non pas dans le Conseil des ministres, mais au sein du caucus de la CAQ. Est-ce que Lionel Carman va vraiment lui retourner? Et je t'explique ma pensée, c'est que je me dis, OK, c'est réglé avec les médecins, donc Lionel Carman pourrait y retourner. Mm-hmm. Mais la CAQ a quand même fait le geste fort d'imposer cette loi spéciale 2-là, qui a créé un ressac immense au niveau des médecins. Puis il y en a qui ne reviendront pas et qui vont avoir quitté. Donc, il me semble que pour moi, Lionel Carman, médecin spécialiste qui va retourner en médecine à la fin de sa carrière politique, s'il retourne à la CAQ, il tourne quand même le dos à ses collègues de travail.
Je comprends ce que tu dis, Jeff. Je trouve ça intéressant. Comment moi, je me suis dit que ça ferait. Il y aura probablement une très belle discussion autour de la danse chez Lionel Carman. Hein, parce qu'on se rappelle, Lionel Carman nous avait dit le problème, c'est que sa femme est médecin et sa fille est médecin. Et sa fille a fait une sortie publique très intéressante sur la question. Est-ce que ça provoquait ce projet de loi sur les jeunes médecins, d'ailleurs? Alors, la discussion va être super intéressante. J'ai hâte de voir le résultat de ça. Une chose est claire, pour François Legault, de pouvoir récupérer Lionel Carman, c'est extrêmement important. C'est important émotivement. Il faut se rappeler que Lionel Carman est un des premiers à l'avoir suivi dans cette aventure de la CAQ. Et si c'est la fin pour François Legault, je suis convaincu qu'il veut finir avec son ami Lionel. Et pour Lionel Carman, ça avait aussi été un choix difficile. Hein? C'est un fidèle de chez fidèle, Lionel Carman, député extrêmement apprécié en passant par tous les collègues, quel que soit le parti. Un homme est foncièrement bon. Et je pense que ça ferait du bien à la Coalition Avenir Québec de le retrouver. Ce sera son choix. Et ce sera certainement un choix de famille. Je ne le connais pas personnellement, mais tout ce que j'entends à son sujet nous dit que probablement, oui, ce sera une conversation c'est durant le temps des fêtes avec sa famille, de voir s'ils sont à l'aise, qu'ils reviennent. Et s'ils le sont, ben, ce serait un très grand gain pour François Legault. Ça nous démontre cependant que ce projet de loi et l'exemple de ce qui arrive quand on a un projet de loi qui est mal ficelé et qu'on a une conversation qui est mal entamée avec le public parce qu'il a payé très cher ce projet de loi sur lequel finalement il recule sur des grands éléments de celui-ci.
Est-ce que ça peut être vu comme un manque de colonne vertébrale de la part d'électeurs? C'est des textos que l'on reçoit.
Les gens sont durs hein, avec les politiciens. C'est très dur. Non, parce qu'il n'est pas allé ailleurs. Moi, je pense que oui, il y a des gens qui vont le dire, mais très honnêtement, il n'y a personne qui pense que Lionel Carman est autre chose qu'un caquiste. Hein. Donc oui, ça doit être un député indépendant qui n'était plus à l'aise de siéger avec son parti. À partir du moment où son parti a reculé sur la moitié du projet de loi, est-ce que c'est de la plaventrisme de revenir à la maison? Ben, tu sais, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent avoir l'exemple de chicaner avec ta femme, partir une couple de jours, réfléchir, puis revenir pareil. Ça ne veut pas dire que c'est de la plaventerie ce que tu fais. Mm-hmm. Je pense que ça peut arriver en politique comme dans la vraie vie. Alors, je trouve que les gens qui diraient ça seraient peut-être un peu trop durs avec toi.
Tu as juste préparé un peu les chandelles, tu as cuisiné un bon repas, puis tu dis « me voici de retour à la maison, chérie. Main dans la main, on va faire un autre bout de chemin ensemble. »
Au pire, une coupe de session de psychothérapie de couple. Et,
Victor, je termine avec Maxi qui dépasse Costco parmi les épiceries les plus populaires pour les Québécois. Je vais t'avouer, je me demandais, j'étais le seul à avoir fait ce mouvement-là. Et je t'explique, les temps sont durs. On n'a pas de l'argent qui déborde de nos poches. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en allant chez Maxi, j'avais des meilleurs rabais. Puis je n'étais pas obligé d'acheter des quantités qui, anyway, je vais finir par en acheter à un prix qui, oui, à l'unité, revient meilleur qu'au Maxi, mais chez Costco, j'en ai toujours trop, puis ça me coûte toujours trop cher.
Nous ne sommes pas commandités par Martin Matt ni par Maxi pour faire ce segment, mais je suis à la même place que toi, Jeff. Je pense que c'est la victoire du bas prix. Et c'est une bonne nouvelle pour Maxi. Ça démontre aussi la force de sa stratégie de marketing. Il faut se rappeler que Maxi, rappelez-vous, il y a une couple de près d'un an et demi, deux ans, Maxi avait décidé de transformer les Provigo en Maxi.
Oui.
Il avait décidé d'avoir une stratégie où est-ce qu'on passait des très gros Maxi, les fameux Maxi et compagnie, à des Maxi de proximité. Une stratégie qui a amené beaucoup d'ouvertures de nouveaux magasins et qui a rapproché cette bannière de bas prix du citoyen. Moi, je pense que ça a un effet important. Le côté négatif de cette nouvelle, c'est que ça nous démontre aussi toute la pression que le panier d'épicerie fait sur les Québécois aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le sondage, j'invite les gens à aller regarder l'étude où Maxi passe devant Costco, seulement au Québec en passant. Hein. Costco est toujours devant dans le reste du Canada. Et principalement, les Québécois sont ceux qui regardent le plus au Canada le prix des denrées pour faire le choix de leur épicerie. Moi, je suis comme toi, Jeff, j'ai fait le choix de Maxi aussi. Je trouve que les produits aussi se sont améliorés en termes de fraîcheur. Il y a une époque où est-ce que Maxi n'était pas nécessairement aussi bien garni. Mais ça nous démontre que les gens trouvent ça dur. L'inflation sur l'épicerie a été très élevée en 2025, hein, 3,8% de ce qu'on a su. Et malheureusement, ça n'a pas l'air de vouloir baisser les prochaines années. Alors, les Québécois cherchent des solutions. Maxi en profite. mais c'est pas une bonne nouvelle pour notre économie en général. Heureusement qu'il y a, par exemple, des options pour les gens qui veulent faire attention. Et je pense qu'on fait tous attention maintenant à où est-ce qu'on fait notre épicerie.
Exactement. Merci beaucoup, Victor Henriquez, pour cet excellent caucus. On apprécie énormément ta présence cette semaine et on se reparle demain.
Pour demain, bonne journée à tous.
Salut,
bonne
Victor.
Journée.
Merci beaucoup, Victor Henriquez, que vous allez entendre en remplacement d'Antonine Iacarini cette semaine, du lundi au jeudi, de midi à 12h30 et dans la semaine du 5 janvier.
Avec grand bonheur, on l'accueille. Ah, vous oui. connaissez en plus bien ici à Boulevard
Saint-Denis. Pascal, c'est des raisins du Maxi. Ils sont super bons.
Il y a des gens aussi qui disent, ben tu sais, au Costco, tu as payé une carte de membre aussi, plusieurs.
C'est
ça
vrai.
D'avoir
t'as entièrement raison.
Avec un membership.
Ah non, vraiment. Puis quand Victor parlait des Maxi qui sont devenus des Maxi de proximité, il frappe dans le mille. Moi, c'est le cas. À deux coins de rue de chez moi, c'est un Provigo, il y a de cela peut-être 3-4 ans, c'est maintenant un Maxi. Pis, on retrouve plein de produits justement à bas prix. Puis vu que c'est à proximité, ben dépense pas d'essence.
Il y avait beaucoup aussi de stéréotypes et de préjugés. Puis certains étaient des faits sur Maxi il y a quelques années, dans le sens où c'est une épicerie où, dans la catégorisation des fruits et légumes, c'est pas la même catégorisation qu'un IGA puis qu'un Metro, par exemple. Fait que dans la qualité de ton fruit, ben, admettons que tu as une échelle de 1 à 5, je ne sais pas exactement c'est quoi, ben, ça se peut que ce soit un fruit 2, 3, mm-hmm. au lieu d'un fruit 4, 5. Ce qui fait en sorte qu'il y avait une grande... Oui, une grande différence entre la clientèle dans un IGA puis dans un Maxi.
Oui.
Mais avec l'achalandage que Maxi a réussi à aller chercher, avec les bas prix, avec l'inflation, avec le fait que, bon, le portrait de l'instabilité financière puis l'instabilité alimentaire a énormément changé, il y a plusieurs gens qui ont migré dans des épiceries
vraiment?
Comme Maxi. Donc, il y a un état de roulement qui est beaucoup plus important qu'il y avait. La fraîcheur, il y a une différence aussi.
Tu as entièrement
cette fraîcheur-là
raison.
Renouvelée a attiré d'autres personnes. Et le portrait, initialement, que certaines bannières avaient, qui était un petit peu plus défavorable au niveau de la fraîcheur, a beaucoup changé.
Mais tu as entièrement raison, parce que moi, au début, j'allais au Maxi puis je me disais, ah, le canage, les bords tendres, ces affaires-là, c'est là que je prends ça. Puis j'allais prendre mes fruits, légumes puis ma viande au IGA, au métro. Et maintenant, je fais vraiment mon épicerie chez Maxi parce que je retrouve une bonne qualité de produit. Donc, tu as entièrement raison. Au niveau de la fraîcheur des aliments, les fruits, les légumes, je vois vraiment une différence.
Marketing réussit d'aller chercher Martin Matt, qui est vu comme une sommité, qui financièrement, ça déborde, etc. Puis l'amener aussi à déstéréotyper le Maxi comme étant, tu sais, avant, ah, c'est pour les pauvres, c'est pas aussi pour ça. Mais là, Martin Matt, il va, entre parenthèses, on l'a pas suivi à trace, mais
non.
Coup marketing aussi.
En effet, tu as entièrement raison, Pascal. Après la pause, on continue à parler des buts de neige.
Avec
Sylvain Dutelot, l'enseignant, sera avec nous. Et sur ses médias sociaux, qu'est-ce qu'il a fait dans le matin? Répète-moi ça. Là.
Il a fait les interdits les plus loufoques dans le système scolaire, et ça, je trouve ça très bon.
Ah, j'ai tellement hâte d'entendre ça. C'est sûr qu'on va rire, mais des fois, on va peut-être rire jaune en disant « Ah ouais,
surtout
on est vraiment rendu là. Hein? » Donc, c'est immédiatement après cette courte pause à l'émission d'En Jase sur Boulevard 102.
Moi, j'en ai une idée cadeau pour vous. C'est du café. C'est un incontournable dans la routine du matin, dans celle du midi, ou encore un bon petit décaf en fin de soirée. Le temps des fêtes arrive, un petit décaf là, avec un petit, je sais pas, un petit spicy, un café heureux, coureur des bois. Peu importe ce que vous voulez mettre à l'intérieur, c'est toujours le fun. Pour la référence en café, c'est Sobab, 3e Avenue. Une belle marche dans les Limoilou en ce moment, ça fait du bien. Un arrêt qui s'impose aussi, c'est chez Sobab parce que c'est une compagnie familiale. On prend soin de vous comme on prend soin de notre famille. C'est de père en fille et là, toute la famille est rendue sur place pour vous conseiller. C'est parfait pour les moments entre amis ou en amoureux d'aller sur la terrasse doubler l'été. Mais l'hiver, ben, c'est le fun de rentrer à l'intérieur et se faire conseiller le café qui va vous réconforter en une journée enneigée, un matin beaucoup trop tôt ou dans la routine scolaire avant le temps des fêtes. Puis là, vous allez pouvoir prendre votre temps. Dans les prochains jours, peut-être qu'il y a des vacances qui vous attendent. Les deux pieds sur le pouf à le savourer chaud, votre café, ça vous tente d'en avoir un de qualité. Chez Sobab, on va vous trouver votre café, on va trouver vos idées cadeaux aussi. Il y a des cartes cadeaux, il y a des vêtements, mais il y a certainement des petits gadgets qui vont faire une réelle différence sur le goût de votre café au quotidien et qui vont upgrader votre machine à café, qu'elle soit de luxe ou pas. Et pour ça, il faut aller jaser avec la gang de chez Sobab. Pour les idées de Bon Noël, pour les cadeaux d'hôtesse, pour les petits sacs de café cachés un petit peu partout ou pour les vôtres, eh bien, c'est chez Sobab, 3e Avenue. Cocooning, café, réconfort. C'est chez Sobab.
Pour la vérification d'antécédents judiciaires, pensez Identité Québec. Ils offrent le service de prise d'empreinte pour entreprise.
Devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Vous faites bien de nous prévenir, madame. parce que oui, on jase des gros dossiers du jour. On va jaser avec Sylvain Duclos des buttes de neige. Mais là, avant Pascal, ça continue et là, les libéraux ont sorti un communiqué de presse pour tenter de défendre l'indéfendable, c'est-à-dire leur chef Pablo Rodriguez.
On essaie d'avoir le contrôle sur le message. C'est pas mal ça, hein, ce qu'on est en train de faire. Communiqué de presse, déclaration de la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez. On a reçu ça dans les dernières minutes. Alors, on dit que Pablo Rodriguez était présent à l'événement du 12 avril 2025 par rapport aux 500 $ donnés pour la contribution. Mais ni lui ni son équipe de campagne n'avaient la moindre connaissance de remboursement effectué à des participants ou à des donateurs. Ce n'est qu'à la suite d'indices transmis par une journaliste et à partir de l'agenda de M. Rodriguez que nous avons pu identifier la personne concernée. Lorsqu'elle a été confrontée, elle a reconnu avoir remboursé de sa propre initiative certains de ses propres employés qui n'avaient pas les moyens financiers de participer à l'événement. On juge le geste inacceptable, contraire à l'éthique, aux règles en vigueur et le geste n'a jamais fait partie des pratiques de la campagne. Il a été posé sans autorisation, sans directive et à l'insu complet de Pablo Rodriguez et de son équipe. Et on ajoute que, conformément à l'engagement public de Pablo Rodriguez, nous avons mandaté un avocat afin qu'il dépose aujourd'hui une dénonciation formelle à l'UPAC ainsi qu'au directeur général des élections du Québec concernant cette personne et les gestes qui lui sont allégués, qui ont été posés, afin qu'il puisse faire l'objet des enquêtes et des suites appropriées.
418-971-1021, je veux un nouveau nom pour ces près de 500 $ parce que là, jusqu'à présent, on a le brownies pour le 100 $ tu votes Pablo, je te donne un brownies. On avait le millefeuille pour les 1000 $ remis à son équipe. Et souviens-toi, les auditeurs nous avaient suggéré la pâtisserie pour le local à 20 000 $ Donc là, Pascal, c'est quoi 500 $ J'ai pas d'idée en tête. Je veux que les auditeurs nous aident. 418-971-1021. Le prêt de 500 $ c'est quoi? C'est-tu un roulé suisse parce qu'on se fait rouler dans la farine? Avez-vous d'autres choses plus pertinentes à nous offrir? Allez-y, on va lire vos textos et puis on revient après cette excellente entrevue avec l'enseignant Sylvain Duclos qui, ce matin, lorsqu'il a vu la nouvelle des buttes de neige, 25 % de degrés, 3 mètres maximum, il a eu l'excellente idée sur ses médias sociaux de dire aux gens « Hey, dites-moi donc, c'est quoi les règles les plus stupides dans les cours d'école que vous connaissez? » Il est au bout du fil avec nous, Sylvain Duclos, comment vas-tu?
Très bien, merci.
Sylvain, félicitations pour ton idée.
Écoutez, je vais être franc avec vous. Moi, ça fait depuis jeudi dernier que j'ai ça dans ma banque et que j'attendais que des journalistes sortent ça dans les médias parce que je trouvais ça tellement ridicule.
Ridicule parce que, semble-t-il, ce soit juste une question d'assurance. Là, le gouvernement de la CAQ est sorti en disant « Bon, on va laisser les directions d'école faire leur choix par rapport à ça. » Mais ridicule au départ parce qu'on a l'impression que tout est rendu de réglementation, de loi, même dans les cours d'école pour les jeunes.
Ça devient complexe. Là. Dans les publications que j'ai faites ce matin là, sur mes réseaux, beaucoup d'enseignants, de personnel scolaire puis de parents qui nous disent des jeunes qui n'ont plus le droit de... Quand il y a de la glace dans la cour d'école, il faut marcher à quatre pattes, on n'a plus le droit de jouer à tag, on n'a plus le droit de sauter dans une flaque d'eau. On se demande jusqu'à un certain point si nos jeunes, dans certains endroits, ont le droit de s'amuser à l'extérieur. Ouais. Bien souvent, moi, ce qu'on me dit, c'est ben c'est suite à des plaintes de la part de parents. Il y a un élève qui a eu une graphine dans le visage avec une branche, on interdit les branches. Puis on accumule tout ça, puis au final, ben il ne reste plus grand-chose pour nos jeunes.
Ça part-tu vraiment de ça, de parents inquiets, anxieux, ou de parents qui ont oublié que oui, ça arrive des accidents? Là, c'est sûr qu'on veut rien de mortel, on veut rien d'handicapant, quoi que ce soit, mais est-ce que ça part de parents, selon toi?
Je pense que ça part de plein de choses. Je pense que il y a des parents qui font des plaintes, qui amènent des décisions comme celle-là. Il y a des assureurs qui ont aussi un gros bout du bâton puis qui mettent des normes et les centres de services scolaires à ce moment-là deviennent très, très frileux parce qu'ils veulent pas se retrouver dans l'embarras. Il y a peut-être dans certains milieux aussi où le personnel scolaire veut éviter les chamaillages, les bagarres, puis il va aussi encadrer des choses. C'est plein de choses, mais je pense qu'au Québec, jusqu'à un certain point, on a peur d'avoir peur. Puis le ministre Drainville, lorsqu'il est sorti l'an dernier avec ce rapport-là des pédiatres qui disaient qu'il fallait ramener le jeu dangereux, il parlait de roi de la montagne, etc. Bien, il a, d'une certaine façon, il a donné un coup de pied dans la fourmilière en disant « ben je veux que les jeunes aient du plaisir », mais il a renvoyé le ballon dans la cour des institutions scolaires. là, se retrouve à jongler entre les parents, le politique puis les assureurs, puis on ne sait plus quoi faire.
Hey, Sylvain, tu amènes un bon point là-dessus, parce que François Legault est sorti aujourd'hui pour dire « ça n'a pas d'allure, on veut que les jeunes continuent à jouer dans les buttes de neige ». Mais le politique parle, mais n'agit pas nécessairement comme il parle, parce que Bernard Drainville ne s'est pas assumé dans sa sortie l'année dernière.
Ben, en fait, parce que jusqu'à un certain point, moi je l'avais nommé l'an dernier en disant « c'est des questions d'assurance, c'est des questions de poursuite de parents ». Pourquoi est-ce que si le politique envoie cette directive-là, pourquoi est-ce qu'il ne s'assoit pas avec les centres de services scolaires, avec les comités de parents, puis avec les assureurs, pour trouver quelque chose sur le sens du monde? Mm-hmm. Ça ne doit pas prendre 3 heures décider comment est-ce qu'on s'organise pour que nos jeunes aient le droit de jouer dans la neige puis de glisser en bas d'une butte de neige.
Mais c'est-tu justement parce qu'ils veulent pas trop prendre de pouvoir par rapport aux directions d'école? On les a sentis entre l'arbre et l'écorce, souvent les directions d'école, donc d'avoir un peu de latitude dans leurs opérations, ça doit leur faire du bien. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. On déplore pour presque la majorité cette consigne-là là, de la butte de neige à angle de scie avec 3 mètres gros max, sinon casque pour jouer au roi de la montagne ou juste monter sa montagne. Pour la majorité des commentaires que je vois dans les textos, moi, je suis pas maman, je ne sais pas, j'ai pas affaire avec le système scolaire en ce moment, mais majoritairement, les gens déplorent ça. C'est qui chiale?
Je le savais. Bien, c'est certain qu'en tant que parent, lorsque quelque chose arrive à notre enfant, on va avoir tendance à chercher un coupable puis à être très émotif. Moi, le premier. Mais en même temps, c'est lorsqu'on est à tête reposée puis qu'on regarde ça de façon froide qu'on est le mieux à même de juger. C'est certain que si ton enfant s'est blessé, ça se peut que tu fasses un appel au centre de service scolaire puis que tu sois pas content puis que tu remettes en question le travail du personnel. Mais en même temps, je pense que c'était pas le meilleur moment pour qu'on se fie à ton jugement à ce niveau-là. Non.
Donc, une personne, peut-être par une plainte qui s'est rendue même aux assurances et donc ça a coûté très cher au service scolaire et autres, peut faire changer la donne au complet?
C'est l'impression que j'ai pas les statistiques là-dessus, mm-hmm. mais c'est ce qui semblait sortir dans les médias ce matin aussi.
Sylvain, les enseignants, on le sait, il y a une pénurie d'enseignants. Vous êtes surchargé dans des classes avec un plus grand nombre d'élèves, avec des élèves en difficulté d'apprentissage de plus en plus et sans justement ressources externes parce que avec les coupures qu'il y a eu, il y a plusieurs techniciens en éducation spécialisée qui ont quitté le réseau scolaire. Là, de se faire ajouter, il faut que je calcule la butte de neige. Vous devez être écœuré par à peu près.
Ben, je suis pas au primaire. J'ai la chance de ne pas gérer les buttes de neige. Mais effectivement, c'est encore une surcharge pour le personnel scolaire qui va avoir à gérer ça, que ce soit le personnel de soutien, les enseignants ou les TS. Et à un moment donné, ce qui risque de se passer, c'est qu'il n'y en aura juste pas.
Ouais.
Parce que ça devrait devenir trop complexe, puis au final, on va abandonner le projet.
Justement, est-ce qu'on parle beaucoup des parents qui se plaignent, mais Sylvain, il peut y avoir aussi des professeurs, des fois, qui disent « Hey, regarde, là, on va faire le plus simple, on va l'interdire parce que ça ne me tente pas de commencer à gérer ça. J'en ai déjà par-dessus la tête de responsabilité. »
Bien, c'est possible que ça existe tout à fait. Là. Écoute, on ne remettra pas la tête dans le sable. À un moment donné, quand ça devient trop complexe de gérer une situation, c'est possible que l'interdiction devienne plus facile.
Mais dans ce cas-ci, c'est presque une interdiction avec tout ce qui est hauteur, angle mort, angle scie, le casque. Tu parlais du secondaire, Sylvain. Il y a quelqu'un dans tes commentaires pour répondre à ta question sur tes réseaux sociaux à qu'est-ce que vous avez trouvé de plus ridicule qui est interdit dans les cours d'école. C'est une enseignante aussi au secondaire qui dit « Hey, moi, je suis en secondaire 1 avec les élèves. Quand je demande ce qu'ils aiment de plus au secondaire, la réponse est la liberté de faire ce qu'ils veulent, que ce soit des erreurs ou autres. C'est l'avoir la liberté. » Par texto, ce matin, on nous disait qu'à l'école oraliste de Québec, il y avait possibilité de jouer au roi de la montagne, du moins sur les buttes de neige. Écoutez, là, c'est une école privée et c'est une école pour les enfants sourds et malentendants avec un trouble de langage. Et on comprend qu'ils ont besoin d'être jeunes et d'en profiter.
Puis, c'est un apprentissage aussi. Se chamailler, glisser, faire des erreurs. Des fois, faire des choses un peu dangereuses puis se rendre compte que, OK, finalement, on a poussé la limite trop loin. Mm-hmm. Lorsque ça ne se fait pas graduellement dans le développement de l'enfant, bien, le jeune, il a des lacunes. Puis c'est là qu'ils viennent faire, à un moment donné, des choses qui n'ont juste aucun sens parce qu'ils n'ont jamais eu cette liberté-là de le faire. Fait que quand on les encadre trop puis qu'on les laisse lousses au secondaire, bien, c'est là qu'arrivent aussi les accidents.
Mais il vaut mieux les faire jeunes que les faire plus vieux en tant qu'adultes. En tout cas, c'est une façon que je pense. Puis la motricité, la part du risque, l'évaluation du risque, c'est à développer, ça.
Tout à fait.
Sylvain Duclos, on te remercie infiniment pour ta participation à l'émission On en jase. On va souhaiter que nos enfants puissent glisser dans les buttes de neige cet hiver parce que le jeu libre est encore un jeu très plaisant pour eux, surtout un vecteur d'apprentissage important.
Merci pour l'invitation, une bonne journée.
Fait plaisir, salut Sylvain, bonne journée. On sentait chez Sylvain un découragement.
Ben oui!
Puis avec raison, là, c'est fou. Et c'est fou les textos qui rentrent. Alexandre qui dit interdire aux enfants de jouer sur une butte de neige. On vit dans une société malade. Désolé, ça me choque, c'est d'un ridicule. En effet, une mère de famille, 4 enfants, ados, jeunes adultes. Je suis heureuse qu'ils aient eu la chance de jouer dehors et d'être des enfants. Pas des enfants branchés et avec des horaires de premier ministre. Mm-hmm. Laissons nos enfants jouer et tester leurs limites. C'est tellement vrai.
Puis tu sais, je déplore vraiment le contexte de l'assurance là-dedans. Je me demande si on en serait là, si c'était pas de ça, puis des plaintes parentales, etc. Tu sais, la façon de régler un conflit aussi, tu dois l'apprendre jeune pour être un meilleur humain, mm-hmm. pour être un meilleur adulte. Si c'est par l'interdiction de ci, de ça, qu'est-ce que ça va donner plus tard au lieu de la discussion, de régler le conflit avec l'ami s'il se passe quoi que ce soit? De prendre le temps d'évaluer la butte et de dire « Hey, elle est trop haute. Moi, je me sens pas à l'aise, je jouerai pas dessus en tant qu'enfant.
Ouais. »
Ça apporte beaucoup d'estime de soi, de confiance.
Mais t'as raison, il y a la gestion de risque là-dedans. Il y a apprendre aussi à surmonter les difficultés dans
les peurs, l'estime de soi, le fait de parler avec quelqu'un, d'être capable d'avoir un dialogue. Non, ça ne me tente pas de jouer. Non, pousse-moi pas. Il faut que ces jeunes-là développent puis connaissent leurs limites aussi. Dans la publication de Sylvain Duclos, je vois, en maternelle, mon fils n'avait pas le droit de jouer à se lancer une boule de feu imaginaire parce que c'était un jeu qui était jugé trop violent. Il n'a pas eu le droit de jouer avec son ami pendant 2 jours comme conséquence.
Elle est imaginaire, la boule de feu.
Ben, c'est bon de cultiver l'imaginaire
Oui, ça fait partie. Rêver.
Mais...
T'es rêver, être dans l'imaginaire, s'imaginer des choses.
Être capable de jouer seul.
Oui, ça fait partie, là, justement, du développement humain, là, tout simplement. Moi, Marceau m'agace des fois, m'agace souvent en disant hey, « toi, toutes les statistiques sportives, t'es connais. » là. Mais moi, quand j'étais jeune, là, les schtroumpfs, là, ça jouait au hockey. Là. Ça va pas jouer au schtroumpf. Là. Puis, il était tout un joueur de hockey, puis il y avait toutes des statistiques. mais c'est ça.
Tu jouais pas
mais j'étais dans mon imaginaire. Non. C'est ça, c'était dans mon imaginaire. Là. Puis il y avait une équipe Canada, une équipe américaine, des Russes, puis let's go. Là,
tu développais autour de
exactement,
ça.
Exactement, c'était ça. Hey, j'en vois mon Edou, toi, avec ses petites voitures qui sont toutes alignées une en arrière de l'autre. Puis là, ils ont tout un personnage puis une mission. T'sais. C'était extraordinaire de le voir à 3 ans, 4 ans, je vois avec ça.
Puis, tu sais, d'être tout le temps dans la contrainte avec les enfants, mm-hmm. là, puis de barrer, puis quoi que ce soit, je pense que je me réfugierais, moi aussi, derrière une tablette. Parce que là, tu te fais pas poser de questions, tu te fais pas arrêter sur quoi que ce soit, on s'entend, là, mais...
Tu te fais pas dire que tu cries trop fort.
Que tu sautes trop haut, que t'es turbulent, que... Il y a sûrement quelque chose là-dedans aussi. Puis quelqu'un qui nous écrit, Jeff, je vais vous dire quelque chose, je sais pas si tout le monde est prêt à l'entendre, mais pour moi, le problème, c'est l'argent. Dans toutes nos sphères, c'est la source de problèmes. On pense qu'elle est source de solutions. Plutôt, elle n'est plus de résonance de liberté et de restriction, d'abus de contrôle. Parce que c'est sûr que si on vient qu'à avoir peur d'une poursuite, d'une plainte parentale, puis on se dit que ça nous coûterait trop cher, donc on va arrêter de jouer ça à but. Si c'est à cause de ça, on a un certain problème. Là.
C'est clair. C'est
dans
un excellent
point. Comportement
ben oui.
parentaux aussi.
Ben
là.
Oui, on a des problèmes certains. T'sais, on a plein de textos qui rentrent. « Hey, moi, ma soeur s'est déjà cassé un bras, mes parents n'ont rien dit, etc. Hey. » Puis c'est vrai, là, hey, moi, là, je revenais du patro des fois. « Hey, enflé parce qu'on venait de jouer justement dans la butte, puis j'avais reçu un coup de coude. Ma mère me disait toujours, t'es amusé? Ouais, parfait, good, tu retourneras demain.
La sphère, là, l'araignée, on appelait ça l'araignée
ben
quand
oui.
j'étais jeune, en métal. Là,
oui, oui.
C'était une demi-sphère qui sortait
j'ai
de
vécu
ça.
La même chose.
Ça me semblait tellement haut maintenant, du haut de mes 31
ben oui.
ans, ça pied 7. Non, mais quand
c'est
même, ça me semblait haut. Il y en a qui ont tombé de là. Puis c'est pas des histoires, faut se casser un bras, faut se casser pas ça.
Non.
Mais. Crime, c'est pas tout le monde qui allait jouer là.
Voilà.
Parce que c'est pas tout le monde qui se sentait apte. Il y a personne qui était obligé. Mais c'était là si t'avais envie de prendre
c'est
des
ça.
Risques.
Hey, moi, Edou, à l'école, c'est déjà failé un talon en tombant justement d'une butte de neige. Il est tombé, mais il est tombé sur ses 2 pieds.
Voyons.
Puis il s'est failé un talon. Mais penses-tu vraiment que je suis allé voir l'école pour leur dire « Hey, c'est dangereux la butte de neige. » Edou, c'est déjà cassé un poignet en tombant sur de la glace dans le cours d'école. Même pas parler à l'école. C'est un accident qui arrive. On va aller à l'hôpital, puis
on continue.
On repart après. C'est comme ça, c'est
ils
ça
apprennent.
La vie. Ben, exactement. Il a appris de que de se donner un swing de peut-être 40 pieds pour glisser sa glace, il allait faire 10 pieds la prochaine fois parce qu'à 40, il se plante et il se casse le poignet.
Puis si une journée, là, il y a eu, mettons, pluie verglaçante, puis la butte est glacée puis est vraiment dangereuse, où il y a des pics parce que la déneigeuse est
pas... Le personnel, l'enseignant va dire il n'y a personne qui va dans la butte de neige, puis that's it, là.
Pour les 2-3 prochains jours, on est capable d'évaluer le risque aussi. Là.
Ben oui, voyons donc.
Faisons confiance à ces adultes-là.
C'est clair, faisons-leur confiance. Il n'y a pas de doute. Ici, on a les buttes de neige qui sont faites par les déneigeurs. Alors pourquoi ils ne mettent pas une pancarte à vos risques? Nous ne sommes pas responsables des accidents et que les parents leur expliquent. Ouais, ça pourrait peut-être être une façon de procéder, mais encore là, est-ce que c'est suffisant selon les assurances? C'est la question à se poser.
Mon conjoint et mes enfants aiment la lutte. Mes garçons, 6-7 ans, ont joué à la lutte. Ils ont eu un billet de manquement majeur pour geste de violence.
Hey, et moi, et là, j'ai inclus l'avant des enfants, Cynthia, les gars, depuis qu'ils ont à peu près, mettons, 7 et 9 ans, qui s'amusent à faire des combats de lutte dans le trampoline. Mais là, ils font des combats de lutte, soit avec un gros toutou, mais ils font des combats de lutte entre eux autres aussi. Là. Puis des fois, ils sortent un escabeau, puis là, ils sautent de l'escabeau par-dessus le filet du trampoline. Ça. Puis nous autres, on regarde ça, puis on applaudit, puis on crie « This is awesome! » Fait qu'on est vraiment des mauvais parents, finalement. « Colin de Bin! » Non, c'est pas vrai. Je trouve qu'on est des bons parents. On les laisse justement développer leur imaginaire et prendre les risques qu'il se faut. Donc, vraiment, ça continue de faire jaser, continue à nous écrire des textos. J'avais également demandé par texto, Pascal, c'est quoi le dessin pour le 500$. Et ceux qui gagnent, on a eu des excellentes suggestions en passant, le gâteau McCain, etc. Mais c'est Mathieu qui gagne. Il a suggéré le gâteau opéra. Et pourquoi? Parce que c'est du chantage.
Ah, c'est bien.
J'adore
c'est
ça.
C'est fancy aussi.
C'est fancy, exactement. Oui, puis là, c'était la grande classe qui était là. Alors, parlant de ce 500$-là, c'est sûr qu'on va en reparler avec Rémi Villemeux, mais je te fais entendre Christine Saint-Pierre. Oui. Tu sais, ce matin, il y a des noms qui sont sortis. Stephen Guilbeault, Mélanie Joly, des noms qui viennent du Parti libéral du Canada. Elle était en entrevue à Mario Dumont tout à l'heure. Elle était en entrevue avec nous la semaine dernière. On a bien compris que Pablo Rodriguez n'est pas son préféré. Elle a dit en début d'entrevue, ça suffit, faut qu'il s'en aille. La marque Parti libéral du Québec est entachée. Mais écoute bien sa réaction quand Mario Dumont lui dit, ouais, ça serait-tu une bonne idée de ramener quelqu'un du Parti libéral du Canada?
C'est une mauvaise idée. Ce sont des bonnes personnes, des personnes qui ont été nommées dans le journal ce matin, mais aller chercher un chef à Ottawa, c'est, à mon avis, ça prend quelqu'un qui comprend très, très bien le Québec, qui comprend très, très bien l'historique du Parti libéral du Québec, son histoire, comment il a bâti le Québec et qui est très imprégné de cette histoire-là et qui est capable aussi d'insuffler une confiance et qui est capable de démontrer que cette personne-là elle a le Québec à cœur dans la bataille, prochaine bataille qui s'en vient.
C'est une très mauvaise idée. Évidemment, la prochaine bataille qui s'en vient, c'est la bataille référendaire. Alors, je crois pas qu'on va pouvoir reprendre quelqu'un d'Ottawa et le parachuter au Québec.
Je crois pas non plus que ce soit la solution.
C'est ça. Et Pascal, avant de passer à la pause et d'aller voir Rémi Villemur avec son excellente chronique, où on va revenir justement sur les 500$ et sur les buts de neige, dis-toi que là, faut que tu appelles la DPJ.
Dis-moi.
Vite, vite, vite. Parce qu'il y a un parent qui nous écrit. Mes jeunes ont commencé à bûcher avec une scie mécanique à 7-8 ans.
Sous supervision, fort probablement avec le matériel de protection, etc.
Non, non, non. Appelle la DPJ. Ah. Appelle les assurances. Fais quelque chose, Pascal. Qui est cet individu? Ça n'a pas d'allure. Ouf. J'ai peur. J'ai les frissons.
Oh.
Tu comprendras que je t'en prends un
sarcasme. Mais je le sais. Je le sais.
Ouais. But de neige et Pablo Rodriguez au menu de la chronique de Rémi Villemur, l'excellent animateur au 99.5 Montréal. C'est ce qui vous attend après cette courte pause à Boulevard Saint-Noël, émission d'En Jase. Matériaux Audet Timbermark, tu connais, c'est une entreprise qui est bien en selle depuis 1946. Et c'est la meilleure entreprise pour toi, petit bricoleur du dimanche, qui veut faire des rénovations chez vous. Mais là, on ne parlera pas de réno ce midi. On va parler de bonne bouffe. On va parler d'été. On va même parler d'hiver parce que le barbecue, ça se fait en hiver. Moi, en tout cas, il est sur mon patio et je l'utilise régulièrement. Et là, du 15 au 21 décembre, chez Matériaux Audet Timbermark, obtient 20 % de rabais à l'achat d'un barbecue aux granules de marque Pit Boss sur 6 modèles sélectionnés. En prime, tu obtiens un cadeau, une épice et une sauce de Barbecue Québec. Un beau kit de départ pour toi, fan de barbecue, qui veut impressionner la visite, qui veut impressionner ta conjointe, puis qui veut bien faire manger tes enfants. Fais vite, les barbecues vous attendent dans nos deux magasins situés à Québec et à Saint-Marc-des-Carrières. Puis, reste à l'affût des meilleurs rabais en consultant le matériauxaudet.ca. Matériaux Audet, complice de vos projets depuis 1946.
Pour que vos festins des fêtes...
Émission d'en jase, puis l'on jase de niaiserie en dehors des ondes.
Il faut, parce que l'actualité nous prend une bonne partie de notre cerveau.
Colin, que oui.
Ces semaines-ci font partie des semaines où j'ai besoin d'un vide-tête du genre... tu sais, les films de Noël, ouais. Là, un peu quétaine, là?
Ben oui, hey, j'en écoute à la tonne avec Val ces temps-ci.
Donnez-moi-en, je sais ce qui va se passer. Oh, je peux lire deux, trois nouvelles à travers mon film. Là, il y a ma série favorite sur Netflix qui est revenue. C'est comme Noël en bonne compagnie. C'est une série de Noël qui vient pas du tout d'ici, que tu peux écouter en français... Parce que même en anglais, c'est une traduction. Puis ça fait bien, bien du bien.
Parfait.
Il n'y a rien d'intelligent qui se passe chez nous après les émissions.
C'est ça. Mais c'est parfait comme ça. T'sais, regarde, moi, samedi, après le party de Noël qu'on a eu, sur le divan bien étendu, Val qui me flattait les cheveux, puis on écoutait un film de Noël.
On se sent sur le divan avec vous autres. Je ne sais pas si j'éprouve un malaise.
Avec Lindsay Lohan.
Oui,
pis,
elle en a fait.
Exactement. On écoutait un petit film de même, puis après ça, on est parti pour aller voir le spectacle Aura à Dans Saint-Roch.
Que tu conseilles?
Oui, c'est moins 6 degrés à l'heure actuelle. C'est faible neige intermittente. On la voit un petit peu tomber, mais c'est vraiment rien de dramatique. Demain, ce sera 0 degré avec de la neige. On parle d'une une accumulation de 5 cm. Jeudi, c'est moins 2 ensoleillé, mais vendredi, c'est 8 degrés avec de la pluie, Pascal. Mais à des places, là, faites attention parce que sur le réseau routier, si vous rendez un petit peu plus, là, par exemple, au nord ou même à l'est de la province, on parle de poudrerie par endroit. Là, donc, ça pourrait être très difficile et dangereux sur le réseau routier pour vendredi. Ouais. Alors, prenez-le déjà en note si vous avez du voyagement à faire. Parce qu'on sait, avec les vacances des fêtes qui vont commencer, ça se peut que je décide, hey, m'en va dans le bas du fleuve voir ma famille à Rimouski. Ben, fais attention sur la route.
Fais attention, ça va glisser. C'est ça, un petit redoux avec du froid. Peut-être en rafale, Jeff.
Vas-y.
Enveloppe de 500 $ ben, l'équipe de Pablo Rodriguez va déposer une plainte à l'UPAC et au DGEQ. On dit qu'il n'a jamais été au courant, ni son équipe de campagne, de ces fameuses enveloppes-là brunes. On a reçu un communiqué de presse dans les dernières minutes. Répression du crime organisé. Il y avait perquisition à Québec et à Lévis. Donc, si vous avez vu des branle-bas de combat, c'était ça. C'est en lien avec du recyclage de produits de criminalité. En fait, ça touchait les Hells Angels qui seraient impliqués dans différents locaux et c'est ceux-là qui ont été perquisitionnés. Donc, ça se déroulait notamment au Exclusive Automotive, un atelier de réparation de location de véhicules à Québec et dans une résidence cossue du côté de Saint-Lambert-de-Lauzon près de Lévis. C'est une perquisition ou des perquisitions qui ont été en fait bénéfiques parce qu'on a pu en mener d'autres avec l'information qu'on avait recueillie il y a quelques mois. Saison précoce pour la grippe. Déjà, des enfants en soins intensifs. On dit que les hôpitaux pédiatriques sont débordés de jeunes patients. La grippe est très agressive cette année. Et je termine avec une bonne nouvelle. Tiens, un cadeau de Noël pour 19 personnes qui gagnent 5 millions de $ au loto 649.
Je suis pas là-dedans.
Non, c'est un groupe de 19 parents et amis. Ils ont gagné ensemble le lot classique de 5 millions de $ au 649. Puis là, ils sont tout content, là. Il réside majoritairement sur la Côte-Nord puis dans le bas du fleuve Saint-Laurent. Ça va fêter dans le temps des fêtes.
C'est un chroniqueur que vous adorez. Il est en direct de Montréal, 99.5 Montréal, animateur de l'émission du soir de 18h à 19h, animateur de l'émission de fin de semaine le samedi de 8h à 10h. Et là, remplaçant de nul autre que Benoît Dutrisac pour cette semaine, Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ça va fatiguer, et vous deux?
Ben oui, nous autres aussi, là, on se fait un petit marathon de radio, là, on jase. Une chance que Pablo est là pour nous divertir.
Oui, puis d'ailleurs, je distinguerais ce qui arrive au Parti libéral du Québec de d'autres trucs qui sont arrivés cette année puis qui nous ont rapidement gonflés. Des fois, il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité, puis on est tanné d'en entendre parler. Ben, moi, en tout cas, pour ma part, je suis pas tanné d'entendre parler de ce qui se passe au Parti libéral du Québec, même si ça fait déjà depuis le 19 novembre que ça dure.
Ben, moi non
plus. Parce qu'il y a toujours du neuf.
Exactement. C'est le calendrier de l'Avent, Pascal. Hein? À chaque jour, on ouvre la petite case et qu'est-ce qu'on trouve? Là, c'est un gâteau opéra qu'on a trouvé aujourd'hui. C'est les auditeurs qui nous ont proposé ceci, Mathieu, que c'était le gâteau opéra parce que c'est du vrai chantage. Alors, le 100 $ et des brownies, Le 500 $ est un gâteau opéra. Le 1000 $ est un millefeuille. Et le 20 000 $ du local, ben, c'est la pâtisserie au complet. T'aimes-tu nos auditeurs?
Puis c'est, oui, c'est très bien vu. D'ailleurs, c'est un chocolat coulant. Donc, c'est un chocolat de bonne qualité. On est dans le line d'or. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire des parties de Noël quand vous arrivez chez du monde, puis il y a un pot avec du chocolat line d'or. Oui. Tu dis, ah, on va bien manger ce soir. Mais là, c'est ça. C'est vraiment du bon chocolat.
Ma mère a ce petit plat-là. Hey, je suis pas capable de pas en manger 3-4 à chaque fois que j'y vais.
Ils sont tellement bons, ils sont écœurants.
Rémi, dis-moi donc, tu voulais aborder langue et je trouve ça très intéressant justement avec ce qui se passe avec Pablo Rodriguez, les révélations d'aujourd'hui, du fait que là, on va pratiquement être impossible de refaire une campagne à la chefferie pour le Parti libéral du Québec parce que je te dis ce que j'en pense. Peu importe qui va gagner, on va dire, bon, c'est qui, comment qui s'est organisé pour gagner cette fois-ci?
C'est en plein ça. Donc, depuis le début de cette campagne-là, de cette controverse-là, en fait, plutôt, on nous dit faut faire attention. Là. Si Pablo Rodriguez a pratiqué des crocheries, c'est pas le Parti libéral du Québec qui mérite de subir un procès populaire. Là, on nous dit ça depuis le début. Puis, théoriquement, c'est exact. C'est-à-dire que les individus peuvent faire partie des organisations et ternir l'image des organisations qui, elles, ne méritent pas de subir le sort. Par contre, là, ce qu'on réalise, et c'est de la faute à Pablo. Pablo Rodriguez n'arrête pas de dire « je sais pas, je savais pas ». Et là, ce matin, ce qu'on apprend, c'est que la personne qui a décidé de se confesser de façon anonyme, hein, la personne qui a reçu chez elle des gens, puis ensuite échangé des dons contre de l'argent comptant, cette personne-là a dit « je veux juste être clair, là, Pablo ne le savait pas ». Donc, à ce moment-là, si vous êtes un observateur, que vous soyez citoyen, un journaliste, peu importe, vous vous dites « mais si Pablo ne sait rien », est-ce que Charles Milliard sait tout? Est-ce que Carl Blackburn sait tout? Est-ce que Marc Bélanger sait tout? Hein? Je veux dire, ce sont des gens que j'ai tous rencontrés un par un, sauf M. Blackburn. Je n'ai pas de reproches ni d'allégations à leur endroit. Ce sont des gens sympathiques. OK? Mais puisque Pablo, qui semble lui aussi sympathique, ne savait rien, et je le crois quand. Et je suis prêt à le croire à la limite qu'il ne savait rien. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui traficotent en arrière. Oh, la fameuse image de la marionnette et de la main invisible de quelqu'un qui réussit à... Bon, alors si c'est le cas, c'est pas une super bonne idée finalement d'aller à la course à la chefferie parce que vous allez brûler les libéraux, tous les candidats plus intéressants qui restent, hein, qui subsistent. Et ceux-là, ben, les journalistes vont simplement creuser, peut-être se rendre compte qu'il y avait des affaires bizarres. Et s'ils se rendent compte de rien de bizarre, il y a quand même un doute qui est installé dans la tête du monde, à savoir... Ben, eux autres, il s'est peut-être passé quelque chose puis ça n'a pas encore été découvert. Je ne dis pas que le Parti libéral du Québec est brûlé à vie, mais je commence à croire que le Parti libéral du Québec ne pourra pas se reprendre et se replacer sur l'échiquier politique d'ici l'élection.
Je comprends ta réflexion de dire, bon, c'est-tu le sous-parti qui est pourri? Mes mots sont durs, mais en voulant dire une pomme pourrite, là. Est-ce que c'est sous le parti, ceux qui travaillent, qui depuis des années ont une façon de faire qui n'est pas légitime ou qui n'est pas légale dans certains cas, qui finalement va tuer des candidats politiques parce qu'ils ne sont pas au courant de comment ça se traficote derrière eux? La question se pose parce que jusqu'à maintenant, ben, il nie encore toute implication, le parti nie toute implication ou même connaissance des faits pour Pablo Rodriguez. Donc, c'est pour ça que tu ramènes aussi ceux qui étaient à la course à la chefferie aux côtés de Pablo Rodriguez en se demandant ce serait-tu arrivé la même chose du côté de Charles Milliard ou encore de M. Blackburn. Écoute, rendu là, à tellement pas comprendre qui c'est quoi, sur quoi, qui a fait quoi, à quel propos, puis à quel moment, effectivement, on peut aller creuser puis se demander si c'est pas juste la structure du Parti libéral. Et là, ça réglerait beaucoup de questions, à savoir, peux-tu faire confiance au Parti libéral et à sa structure ou on peut pas faire confiance à certains candidats?
Ben oui, mais c'est exactement ça. Donc, le problème avec Pablo, c'est que quand il dit « je sais pas », premièrement, hein, on s'en rappelle, tout le monde en parle, il s'était fait confronter de façon intelligente par M.C. Gilles qui lui avait dit « mais si vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de votre parti, puis votre parti, c'est quelques dizaines de personnes là, autour de vous, là, hein. Évidemment, il y a des milliers de membres, mais les personnes autour de vous, c'est quelques dizaines de personnes. Si vous ne savez pas ça, comment vous allez devenir premier ministre? » Lui, il trouvait ça plus simple de dire « je sais pas et j'ai rien vu ». Mais là, le problème, c'est que quand tu ne sais jamais rien et que tu n'as jamais rien vu, bien, ça veut dire qu'en arrière de toi, il y a des gens qui forcément ont réussi à traficoter sans que tu t'en rendes compte. Ça, c'est si tu t'en es pas rendu compte et si tu n'étais pas toi-même l'instigateur de ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, bien, le parti est brûlé. Pour au moins une élection, rebâtir une confiance et refaire la... Hein, recharger le discours.
Ouais, plus qu'une élection.
Et d'autant plus que, je vais juste rappeler une chose, moi, j'écoute les points de presse. J'aime beaucoup les questions des journalistes parce que derrière les questions des journalistes, C'est pas comme à la télé, là, où on regarde des petits clips. Les journalistes, bon, ils s'obstinent avec les élus. Ils émettent, certains d'entre eux,
Oh que oui.
on parlait l'autre jour de ça existe-tu, journalisme objectif, là? Des fois, j'écoute les questions des journalistes, puis je sais pour qui ils votent, hein? Juste pour une. Et beaucoup de questions des journalistes commençaient par Monsieur Rodriguez, allez-vous partir? Parce qu'on vous le dit tout de suite, on va continuer de vous poser les mêmes questions. D'ici à ce que vous partiez ou d'ici à ce que ça soit plus clair. Ils sont en fait. Il y a personne qui veut savoir ce que Moncef Déragie pense du piètre rendement d'Investissement Québec. Il n'y a personne qui veut savoir ce que Pablo Rodriguez pense des buts, on va en parler, là, des buts dans les cours d'école. Il n'y a personne qui veut savoir ça. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé, combien ça valait tel vote, si. Puis les journalistes font juste leur travail parce qu'en réalité, les citoyens, c'est juste ça qu'ils veulent savoir aussi.
T'as entièrement raison. Lisette qui écrit Coudon, est-ce qu'il est sur Terre, Pablo? Il voit rien, il entend rien. Pablo l'invisible, j'adore. Et tu parlais de MC Gilles tantôt, Rémi. Ça me fait penser à une autre intervention de MC Gilles qui était tellement bonne lors de l'apparition de Pablo Rodriguez, à Tout le monde en parle, où il a dit: vous nous dites que les anciens libéraux sont de retour au bercail. Il dit, moi, ça sonne ancien donateur corrompu. Ça me fait peur. Je pense qu'il avait misé dans le mille.
Oui, puis de toute façon, là, l'argument, vous avez, je ne sais pas si vous avez lu la lettre ouverte de Marc Bélanger hier, parue à 15 h dans les pages de la presse. Tu sais, on nous dit prudence, soyons patients, soyons raisonnables, soyons justes. Ben oui, je veux bien. C'est la posture la plus sage et la plus philosophique, hein, à adopter. Mais les gens commencent à être un peu tannés, là. Il y a des patterns qu'on pensait être mis en arrière, puis c'est encore là. Et moi, je comprends les gens, hein, comme disait Steve Jobs, connect the dots, connecter les points. À un moment donné, là, c'est ça, là. Tu sais, tu fais, OK, ça, c'est indépendant de ça, mais ça, c'est tout le temps en arrière de ça. On va faire un lien entre les deux. C'est pas une... Tu sais,
Ouais, puis là, sa
c'est humain.
stratégie, ouais, puis là, sa stratégie à Pablo de Rivière, c'est: tiens, je vais faire une mise en demeure au journal. Tiens, je vais faire moi aussi une plainte à l'UPAC. Je
C'est
vais
parce
faire
que...
moi aussi une enquête.
C'est parce que si c'est personnel à lui, puis mettons, là, dans un monde où il n'y a absolument rien à se reprocher, puis il ne savait vraiment pas, c'est un peu sa crédibilité, puis sa personne qui est en train de sauver, il essaie de sauver son image. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait comprendre là, ses mises en demeure, ses poursuites, ses ci, puis c'est ça. Le fait de s'accrocher au pouvoir aussi pour ne pas avoir l'air de céder, ben, comme quoi il serait coupable de quelque chose. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est qu'à un moment donné, tu te présentes à la course à la chefferie, tu deviens leader d'un parti qui est connu, reconnu pour ces problèmes-là, puis tu t'assures pas, même si là, il était pas au courant peut-être ou quoi que ce soit, mais tu t'assures pas en disant là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va travailler ensemble. Je veux aucun geste qui soit sur la limite de quelque chose. Et je suis extrêmement rigide là-dessus. Et je vais sanctionner qui que ce soit qui pense avoir une idée d'y aller ainsi. On ne doit pas entacher le dit parti, puis vous n'allez certainement pas jouer avec ma réputation. Ce serait probablement le premier meeting. J'aurais eu l'air d'une complète folle, mais ça aurait été probablement le premier meeting que j'aurais fait avec mon équipe.
Ouais, ben peut-être que tu n'es pas une libérale, ma chère Pascal.
Mais vous
Peut-être que tu n'as pas ça en toi. Écoute, je vais aller un peu plus loin que toi. On laisse tranquille les membres du parti depuis le début. On essaie de les épargner, mais ils ont voté pour lui, hein. Ils ont voté pour Pablo Rodriguez. Et Pablo Rodriguez est arrivé à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec avec une réputation. Et sa réputation, je vais être prudent, c'était celle d'un ancien haut gradé du Parti libéral du Canada. Tu sais, où il y a beaucoup d'argent qui brasse, beaucoup de copinage, des années au pouvoir. On voulait pourtant se détacher de ça. Il était question de faire en sorte que le Parti libéral du Québec, le nouveau Parti libéral du Québec, soit pas le parti de Justin Trudeau, soit pas la succursale, c'était l'expression du Parti libéral du Canada. On voulait un Parti libéral du Québec nationaliste, avec un modèle d'intégration qu'on valorisait comme étant l'interculturalisme et non multiculturalisme. Et on n'a pas finalement les membres. C'est les membres qui ont voté pour lui. Là. Il n'a pas été couronné, là, hein? Il a été élu. Donc les membres ont eu ce qu'ils méritaient.
Ouais, et pourquoi Rémi? Tout simplement parce que quand Jean-Marc Léger faisait un sondage, c'était Pablo Rodriguez qui scorait le plus fort contre le PQ. Puis on a décidé de voter selon les sondages au lieu de voter selon ce que le parti avait besoin. Et ça, j'espère que tout le monde en prend note, militant du Parti libéral inclus. Rémi, but de neige. On s'assine là-dessus depuis un matin. On a ri des parents qui disent à l'école, ça n'a pas d'allure, mon enfant a joué sa butte de neige, puis il s'est fait mal. Tantôt, avec un enseignant, Sylvain Duclos, il nous disait, ben là, c'est rendu quand il y a de la glace dans des cours d'école primaire, on dit aux jeunes de marcher à quatre pattes pour pas tomber. C'est qui le responsable de cette folie-là? C'est-tu les parents qui disent à la direction d'école, vous êtes des irresponsables? C'est-tu les assureurs qui ont trop peur? C'est-tu notre société en général? Parce que tout ça est sorti par texto depuis qu'on en a parlé pour la première fois ce matin, quoi, 6h15, Pascal?
Oui. OK. Là, moi, je vais être prudent. Là, c'est vraiment la chronique de la prudence. Moi, j'ai pas d'enfant. Donc, si je fais une leçon aux parents, je vais me manger un char de schnout et ça me tente pas. Je suis dans l'esprit des fêtes déjà. Par contre, tu viens de mettre sur la table une pléthore de responsables possibles. J'exclurais de ça d'emblée l'assureur. L'assureur veut pas payer. Donc, la loi économique, cours d'économie 101, là, l'assureur veut pas payer. Donc, il est pas responsable de ça.
Comment ça? Ça va toujours bien quand je fais une réclamation d'assurance? Toi aussi, Pascal? Ouais, t'as jamais plein de choses à prouver? Tout va bien?
Ça a vraiment été facile quand Tom m'a rentré dedans. Là.
Oh,
bah,
oui, ben oui, c'est un petit chemin tranquille. Je comprends pas ce que Rémi nous dit.
Je pense honnêtement que s'il y a quelqu'un qui est responsable, ce sont quand même les parents. Je veux être prudent parce que je pense qu'on fait de notre possible, tout le monde dans la société. Puis, je veux dire, si je disais à un parent, « Hey, ton enfant, tu devrais accepter qu'il puisse risquer de se blesser », ben, je veux dire, je m'exposerais à la réplique la plus facile de l'histoire. « T'en as-tu des enfants pour dire un truc pareil? » J'en ai pas. Donc, je dirais pas exactement ça, mais je vais juste rappeler quand même les bienfaits de se casser la gueule une fois de temps en temps. Les enfants se lancent des affaires au visage, se catapultent dans les airs, se contorsionnent, se cachent, se perdent, s'oublient, oublient de manger, se garochent la nourriture dans le visage. Et savez-vous quoi?
Ils s'en remettent.
Ah, ils mangent aussi leur crotte de nez. Ben, pas tous, hein, parce que...
Non, les adultes aussi. On vous voit.
Non, mais ils s'en remettent. T'sais, on est rendu dans une société du risque zéro, puis on a oublié que, premièrement, on n'y arrivera jamais. Deuxièmement, c'est le risque a ses vertus perdues et oubliées, parce que les winners dans la vie, là, c'est ceux qui, quand ils arrivent devant une clôture, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, puis ils sautent par-dessus. Ça, c'est les winners, les gens qui ont du succès dans tous les domaines que vous connaissez, autour de vous. Les meilleurs dans ci, les meilleurs dans ça, femmes comme hommes, ce sont des gens qui prennent des risques. Donc, si on apprend aux enfants à ne jamais en prendre, c'est dangereux ce qu'on prépare comme société. C'est très, très, très dangereux.
Alors, le solutionnaire doit être développé. C'est pas vrai qu'automatiquement, dans ton... tu peux avoir un petit peu plus de capacité à solutionner des choses, mais il faut que tu aies vécu pour être capable d'anticiper le risque, d'avoir une estime de toi dans certaines situations, de voir où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu mets tes limites, se développer des limites. Si tu les as pas fait enfant, l'âge adulte va être particulièrement ardu et certainement pour ceux qui t'entourent.
Ah, bien, tout à fait, exactement. Chaque âge est peuplé d'expériences qui sont propres à l'âge. Donc, l'enfance, c'est fait pour se casser. T'es mieux quand même de te casser la gueule et de te chamailler à 4 ans, oui, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, qu'à 44 ans. Oui. T'sais, à 44 ans, tu es censé savoir que ça a des limites quand même, le fait de se chamailler, qu'il faut être poli. Bon, alors moi, sans dire que j'y aurais aucun règlement dans les écoles, je pense qu'il y a quand même un strict minimum. Le problème avec cette espèce de façon-là de vivre, c'est que vraiment, ça ne nous prépare pas au vrai monde. C'est quoi le mandat de l'école? C'est de nous préparer à la vie. Mm-hmm. Puis la vie, ça n'a pas changé, là. La vie, c'est encore un peu injuste. La vie, c'est encore un peu... un championnat que remportent ceux qui prennent le plus de risques. Donc, si on élève une espèce de génération de bétail asservi qui ne voit en rien, dans aucun risque, hein, une vertu, ben, qu'est-ce qu'on va obtenir? Moi, je ne pense pas qu'on va retourner sur la Lune.
Ben, on n'aura même plus d'entrepreneurs, Rémi.
Ben non, mais
parce qu'un entrepreneur, à la base, c'est de prendre des risques, là, puis c'est de prendre des risques financiers, c'est de prendre des risques, sur... ta réputation, tu disais, hey, moi, j'ai l'idée du siècle, puis je me lance avec une entreprise là-dessus. Ça demande tout qu'un gars, tu sais, ça demande de prendre des risques, justement.
Ben oui, j'étais en train de te parler de la Lune, puis de bâtir des gratte-ciels, mais partir une business, une petite business,
ben oui,
ça prend, il faut vouloir prendre un risque, il faut être prêt à le faire, puis il faut l'avoir fait par le passé, puis s'être rendu compte qu'on s'en remet. pas, tu peux pas faire, tu peux pas prendre un risque à 44 ans quand tu n'en as jamais pris dans ta vie.
Non.
Donc, puis en passant, moi, je lance un appel, hein, je l'ai lancé plus tôt ce matin au 99.5, mais je le répète, et je suis très sérieux. S'il y a des parents dans n'importe quelle école, à 3 heures dans tous les sens de Montréal, parce que je ne ferai pas 8 heures de route, mais 3 heures, OK, je pourrais faire 3 heures dans tous les sens à partir de Montréal, qui ont des enfants dans une école et dont l'école a décidé de se débarrasser de la butte de neige, je m'engage à venir reconstruire pendant la nuit la butte de neige.
C'est clair. Je vais avec toi.
À mes propres frais, à mes propres frais.
Mais je vais avec toi pour mettre ça sur nos médias sociaux. Je suis certain qu'on passe pour des héros.
Des héros, non, mais oui. En tout cas, vous allez avoir pris le risque que certains ne voudront pas prendre.
C'est ça, exactement. Puis on a appris ça où, ça?
On a appris ça, c'est à butte de neige, Pascal. C'est là qu'on a appris ça. Ah, on vient de faire un grand tour, mais Rémi, t'as très raison. Et puis, il y a plusieurs auditeurs qui te donnent raison, justement. Par texto, faut apprendre à jouer, faut apprendre à prendre des risques, faut apprendre à se péter à marboulette pour se relever puis aller par en avant. C'est comme ça qu'on forge les adultes de demain. Puis moi, je suis très heureux d'avoir été un parent qui a permis à mes enfants de prendre des risques. Puis présentement, 18 et 16 ans, je suis très fier d'eux, puis je trouve qu'ils se développent bien. Donc, faut croire que c'était pas si mauvais que ça, notre façon de les élever. Rémi Villemur, toujours un grand plaisir de te parler. On se reparle jeudi, mon ami.
Ben oui, pour la dernière de la saison.
Yes, passe une belle semaine sur les ondes de Cube Radio et du 99.5 Montréal.
Bye-bye à vous deux.
Salut mon ami, Rémi Villemur, excellent animateur à Montréal. Début de la trentaine, un gars que vous allez entendre parler énormément dans les médias. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Pascal, toi, c'est quoi la fois que tu t'es le plus pété à marboulette?
Hey, j'y compte plus, là. Moi, je stressais. Ma mère, honnêtement, à un moment donné, j'ai l'impression que j'allais faire une crise du cœur juste en existant, en me levant le matin. Il y a plusieurs choses. Moi, j'avais pas le droit de faire du vélo dans une côte à l'Ange Gardien. J'habitais sur l'avenue Royale, puis il y a un quartier derrière le Château Richard, pour vous situer, là. C'est le gros vert qui est en décrépitude, là. Mm-hmm. Il y avait une grande côte, là, puis j'avais pas le droit d'y aller. En vélo, on me jugeait trop jeune. Mais là, la première chose que je fais, moi, c'est d'y aller en vélo avec de mes amies qui est un petit peu plus... Elle évaluait son risque. Non, moi, c'est moi, ma personnalité. Moi, c'est gaz au bout, pas de frein. Fait qu'en haut de la côte,
let's go!
Je me dis, je la fais et je pars. Mais au lieu de continuer tout droit, je décide de virer à gauche dans une rue et je t'ai ramassé un arbre, Jean-François. Le casque m'a fendu, j'ai perdu connaissance.
Aïe, aïe.
Je me souviens juste d'ouvrir les yeux... puis de voir ma voisine courir avec mon ami qui se posait en haut de la côte en train de probablement la descendre par la suite, puis d'être sur le sofa toute la fête. C'est grosse commotion cérébrale.
C'est clair.
Mais planté, là, je sais pas pour vous, moi, le vélo, j'ai les genoux scrap. Ils sont encore scrap à 31 ans. Le nombre de fois que je me suis planté en vélo.
Ouais. Ah, moi, c'est en vélo aussi. J'avais quoi? 12 ans, je pense, parce que je me souviens, je jouais Pee-wee au hockey. Et c'était pendant les camps d'entraînement. Et là, il y avait une grosse butte de cailloux. Je faisais des constructions par Victoria. Et je me suis dit, la butte de cailloux, je la jump. Mais là, je me suis donné un swing, là, un méchant swing d'à peu près 500 mètres, là, à pédaler à fond de train. Et là, je me souviens d'un de mes chums aussi, Alex, qui me dit... T'es sûr, t'es pas le plus habile. Puis ça, c'est vrai, là.
Oui, moi... t'es valvé, puis...
Non, non, mais c'est parce qu'Alex, lui, il pouvait sauter à butte de cailloux 40 fois, faire 20 flips, puis, tu sais, il retombait sur ses roues, là. Il a mon âge, il fait du snow, puis d'ailleurs, capable de prendre tous les jumps qui existent dans l'univers. Mais là, il me regarde, puis il dit, t'es sûr, Fortin, parce que toi, t'as pas la capacité de faire ça. Genre, ouais, check-moi bien, allez. Je me suis planté, Pascal.
Non.
Je suis tombé sa roue d'en avant. Je me suis écorché à face au complet. J'étais au sang. Je me suis scrappé une épaule. Je me suis fracturé le poignet.
Ben, voyons donc.
Ah non, non, il n'y a rien qui m'est pas arrivé sur cette chute-là.
T'étais tombé blessé.
Ouais, fait que tu sauras que j'en ai pas rejumpé de
ça a été
de
terminé,
ta
carrière.
Ah, ouais, ma carrière de but de caillou s'est arrêtée là. Un jump dans ma vie, un jump mémorable, mais un jump qui a fait mal parce que c'était en pleine sélection de hockey, puis j'ai été déçu à partir de la catégorie que j'ai joué.
Mais toi, tu vois, tu t'en es rappelé. Moi, je pense que c'est là où ça fait en sorte que t'es un grand homme, t'as appris de tes erreurs. Ouais. Moi, tu me demandes quelle niaiserie j'ai fait, j'ai l'impression que ma famille au complet pourrait répondre pour moi. Moi, je m'en souviens pas. C'est peut-être ça l'erreur.
Ah, je me suis fendu le front 4 fois. Je me suis cassé à peu près tout ce qui existe dans le corps. Non, non, on m'appelait beaucoup Jeff la blessure quand j'étais jeune. Mais gars, j'ai survécu, je suis encore là.
Puis clairement, tu croyais en toi, tu avais une bonne estime de toi parce que tu continuais à tenter le coup.
Exactement, je croyais vraiment en moi. Puis je me suis sur la faute à Alex finalement. Lui, il est trop bon. C'est ça le problème.
Vos pires niaiseries ou les pires niaiseries de vos enfants. C'est bon, ça. 88-971-101.
T'as lu dans mes pensées.
Moi, je veux lire ça. J'aime ça. Quelqu'un qui dit moi, c'est au camp 3 saumons. Je me suis cassé le poignet sur la piste d'hébertisme, entouré de moniteurs, comme quoi on ne peut pas tout empêcher. C'est vrai. Tombons et relevons-nous.
Ah, exactement. Donc,
mais on va essayer de remplir les urgences.
418-971-101. Vos pires niaiseries, les pires niaiseries de vos enfants, on vous lit après cette courte pause. Puis on va parler de Donald Trump qui a encore perdu la tête. Hein?
Ça, c'est à chacun d'en juger. Mais là, il commence à pas nous permettre de passer outre le fait qu'il y a un peu de gestion folle derrière sa façon de faire.
En plein ça. Donc, on lit vos histoires et on parle de Donald Trump au retour de la pause à l'émission d'En Jazz sur Boulevard 102.
Si vous cherchez une maison pendant le temps des fêtes parce que vous vous dites « Ouais, ça, ça serait un super beau cadeau de Noël à faire à la famille pour les prochains mois, les prochaines années. » Ou encore, vous voulez vendre la vôtre, c'est trop grand, c'est trop petit, vous voulez aller ailleurs. Ben, c'est Emmanuel Lamantia. C'est 32 millions de volume de vente, 70 transactions juste en 2025, un taux de satisfaction client de 100%. Puis tout ça, ben, c'est sans adjointe. Juste à force de travailler avec cœur, avec l'aide précieuse aussi de sa conjointe Sophie. Travail d'équipe, travail de couple très fort. Courtier Remax, connu pour son marketing punché. Il y a des visuels qui sortent du cadre, un service taillé sur mesure. On est partout en plus. De Neuville à Loretteville, de Sainte-Brigitte à Lac-Saint-Charles. Aussitôt qu'il y a un panneau bleu et rouge, ben il est pas loin. C'est pas compliqué. Et ce qu'il distingue, c'est son franc-parler, son humour, son côté humain et cette capacité-là, capacité rare quand même, de se battre pour ses clients comme si c'était pour sa propre famille. Il prend vraiment à cœur vos projets. Autant pour les chiffres que les émotions, que les clauses légales, que les vidéos virales, c'est l'expert. Vous allez trouver ce qu'il vous faut. C'est un entrepreneur pur et dur, un gars de terrain, un créatif. C'est un passionné de sa job. Mesdames et messieurs, le courtier qu'il vous faut pour bouger le marché, c'est Emmanuel Lamantia.
Faites plaisir aux petits et grands.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1
avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Émission d'En Jase, il est présentement 13h41. Va suivre comme à l'habitude Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Audrey Pinchot et Véronique Bergeron. Une reprise de Marceau le soir à 18h. Et demain matin, c'est moi, Pascal CV et Max Larouche qui vous accueille dans Marceau le matin. C'est pour cette semaine. Yannick Marceau qui est en vacances. La semaine prochaine, belle programmation également à Boulevard. Alors que moi, Pascal CV et Mathias Turcotte seront là le matin, mais à compter de 7h. Hein? Oui. Parce que là, à un moment donné, là, hein? 22, 23, 24, les boss sont gentils, ils nous disent « Dormez une petite heure de plus! »
On prend un petit café festif avec vous.
Exactement. Les meilleurs podcasts de 10h à 11h, le point de max de 11h à 13h, et par la suite également de 14h jusqu'à 18h, c'est les meilleurs moments de Gravel dans le retour avec Audrey Pinchot. Parlant de Gravel, il y aura le fameux Gravel du temps des fêtes, Pascal, qui va avoir lieu le 24 décembre de 14h à 18h. Manquez pas ça, ça va être très bon. Puis imagine-toi donc que le 24 décembre, tu sais, pour le réveillon, là, de 18h à 20h, tu sais, qu'est-ce qu'on va avoir?
Dis-moi.
Le garage à Dan. Un garage à Dan le 24 décembre. Là, tu dis, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben, le garage à Dan va être là le 25 décembre aussi, 18h à 20h. Puis le 26 décembre.
Merci à Dan d'être là avec nous autres pour nous accompagner.
En
route pour nos parties de Noël.
Complètement fou. Rock and Chill de Noël également, 25 et 26 décembre. Le matin, à compter de 8h, de 8h à 10h avec Audrey Pinchot. Dan Corin est là dans le boulevard du Rock le 25. Colosse est là le 26. Et on a également Max Larouche qui est présent pour un boulevard du Rock de Noël à compter de 14h jusqu'à 18h les 25 et 26 décembre. C'est la programmation qui vous attend la semaine prochaine. Là, tu ris de moi parce que je suis en train de recoller la petite feuille.
Il a pris la petite feuille pour vous
T'as
dire la programmation.
Ben raison.
Ça me fait rire, là. Je pense que c'est la fatigue.
Et voilà.
Il y en a un qui me fait pas rire.
Comment
par
ça?
Exemple.
Comment ça, tu es fatigué? Ben voyons là, on
t'as
fait juste
dit qu'on est là
6 heures de radio par jour. Je comprends pas ta fatigue.
Mais c'est vraiment le fun. Mais tu sais, il y en a un qui me fait pas rire, par exemple.
Non. J'imagine que ça va être notre ami Donald de l'autre côté de la frontière. Hein?
Je commence à être de plus en plus critique. critique par rapport à ça. Je fais attention de ne pas être biaisée non plus parce que, bon, clairement, c'est pas mon genre de leadership. Faut que je fasse attention à chaque fois que j'en parle. Je vais vous mener avec des faits une nouvelle. Okay? Bon, vous le savez, il y a eu meurtre aux États-Unis, meurtre du réalisateur Rob Reiner. Okay? C'était un militant qui était proche des démocrates. Oui. Ça, il s'en est pas caché. Je veux dire, c'était ouvertement plaidé.
Exactement.
C'est pourquoi Donald Trump, c'était pas son favori. Okay? Autrefois, il était proche de sa conjointe, mais quand même, ça n'était pas son favori. Et là, bon, plein de membres de la communauté artistique, des élus, ont envoyé une poignée de condoléances, une poignée de messages un peu partout. Et il y en a un, Donald Trump, qui a fait un message qui est politisé et assez dénué d'empathie. Puis ça, ça a été reproché. Je vous lis une partie du message, OK?
Vas-y.
Donc, Rob Reiner, un réalisateur de cinéma et acteur comique autrefois très talentueux, torturé et en difficulté, est décédé, ainsi que son épouse Michelle, apparemment en raison de la colère qu'il aurait suscité chez les autres à cause de son affection massive, inflexible, incurable pour une maladie mentale connue sous le nom de syndrome de paranoïa anti-Trump. C'est ce qu'il a dit. Là, là, il y en a plein qui font des parallèles aussi avec la mort de Kirk.
Ben oui.
Parce qu'on disait, on ne doit pas mourir pour une opinion politique.
Exactement.
On ne doit pas s'entretenir dans la violence entre gens qui n'ont pas le même courant de pensée aussi. Il y a une déchirure dans ce pays-là, puis moi, je dois dire que je la trouve de plus en plus critique et importante. Et le politicien républicain en ajoute une couche avec son témoignage qui va à l'encontre de ce qu'il a plaidé depuis longtemps. Donc,
vraiment,
il n'y a même pas de cohérence entre ses propos.
Tu as tellement raison. Si on revient à la polémique Charlie Kirk, souviens-toi, Jimmy Kimmel a été suspendu
oui.
de son émission parce que, justement, il avait tenu des propos qui n'étaient pas d'ordre logique, je vais le dire comme ça, et surtout de bienveillance avec la mort de Charlie Kirk. Et Donald Trump a été un des premiers, justement, à décrier ce que Jimmy Kimmel faisait. Et à ce moment-là, je suis convaincu sur nos ondes, je me souviens bien, on disait la même chose. On disait, hey, on n'est pas des pros de Charlie Kirk, mais ça n'a pas d'allure ce qui s'est dit. Donc, si ça n'a pas d'allure ce qui s'est dit d'un bord, ça n'a pas plus d'allure de l'autre bord. Et c'est là que je trouve que Donald Trump commence à se brûler énormément avec sa façon de faire, parce que si ça n'a pas d'allure de tenir des propos comme ça pour la mort de Charlie Kirk, ça n'en a pas plus pour la mort de ce réalisateur-là.
C'est là où, admettons, y a des gens qui pourraient le défendre, c'est justement s'il y avait une cohérence dans ses propos en disant, bah oui, ben là, tu peux pas commencer à avoir des actes de violence ou d'être de façon très violemment répréhensible envers les autres si jamais c'est des opinions politiques. Et ça, on aurait tous suivi le courant. Certains l'auraient avalé de travers, mais là, cette fois-ci, c'est que ça démontre l'incohérence dans les propos de Trump. En plus, c'est une tragédie, là, c'est une forte tragédie. C'est le fils du couple Reiner qui a été arrêté pour les meurtres de ses parents qui avaient été retrouvés morts la veille là, dans leur maison, la veille de l'arrestation dans leur maison de Los Angeles. Le Los Angeles Times a rapporté que Nick Reiner, 32 ans, aurait longtemps souffert de dépendance et se serait disputé avec ses parents pendant une fête samedi soir. Ça a dégénéré, c'est ça qu'on comprend là. C'est une tragédie sans nom, peu importe ton allégeance politique. On ne devrait pas voir encore un président des États-Unis comme Donald Trump dire « il a nui à sa carrière, il est devenu dérangé, atteint du syndrome de paranoïa anti-Trump. J'étais absolument pas un admirateur de Bob Reiner, d'aucune manière, sous aucune forme. Je pensais qu'il était très mauvais pour notre pays. » Dans une mort attisée, la haine comme ça dérange beaucoup. D'autres nouvelles sur Donald Trump, ben là, il y a des choses quand même à savoir. Entre autres, dans les dernières heures, soit la dernière heure, il y a une présidence exercée à coup de décret qui est déplorée. Donald Trump a signé cette semaine ce qui devrait devenir son 221e décret. Ça, c'est depuis janvier, en fait, 221e décret.
Ça n'a aucun sens.
Et c'est beaucoup plus que pendant son premier mandat, il faut le savoir, là. Et ça étend ainsi son pouvoir, puis c'est un pouvoir exécutif, là, plus que n'importe quel autre président de toute l'histoire moderne des États-Unis. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On veut ériger des barrières douanières, promouvoir l'intelligence artificielle, combattre le wokisme, augmenter les débits des douches. Le président va...
Augmenter
partout.
Le débit des douches. On c'est comme
partout.
Si c'était du ressort du président des États-Unis.
Ben, peut-être que c'est pour le confort, mais encore là, si on avait diminué le débit des douches, peut-être qu'il y avait une problématique à ce niveau-là, au niveau environnemental ou réserve d'eau.
Ouais, peut-être.
Le président américain a multiplié beaucoup, 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 beaucoup de décrets à un rythme assez inédit. Depuis la Seconde Guerre mondiale, selon une étude de l'AFP, c'est jamais arrivé. Donc, dernier en date, là, on dit que le dernier texte, ça a été signé hier. Et ça classe, ce que je te disais ce matin dans les nouvelles, le fentanyl comme une arme de destruction massive. C'est ce qu'il a signé hier.
Et là, ça a craint pour le Canada, parce que s'il repart dans sa folie du fentanyl qui provient du Canada, alors que c'est même pas 1% du fentanyl qui est présent aux États-Unis qui provient du Canada, ben ça va être d'autres tarifs douaniers là, qui vont être imposés au Canada, là, c'est clair.
Oui, à la question combien de décrets les autres présidents, ben Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, ben en moyenne, on était à 30 à 40 par année. On s'ajustait finalement à leur politique.
Et j'aime que tu mentionnes George W. Bush parce que c'est un président républicain aussi, alors que les deux autres sont démocrates. Donc, on voit qu'il y avait une certaine uniformité selon les présidents, peu importe le parti politique représenté.
Exact. Donc, là, on peut reparler peut-être de l'avion de JetBlue avec un pilote qui on a entendu les ondes radio. Il y a un jet américain qui est passé tout proche. Il y aurait eu collision si jamais on ne s'était pas tassé. Puis sur les ondes radio, on entend ça. Ils survolaient en fait le Venezuela. Vous le savez, Venezuela qui est bombardé aussi. Bien, bateau vénézuélien. Mm-hmm. On pense qu'il y a de la drogue, trafic de drogue à l'intérieur de ces bateaux-là. Donc, on vise avec l'armement américain. Les 10 bateaux ont tué des gens sous le fait de plaider qu'il y a drogue à l'intérieur, puis on est dans le narcotrafiquant, puis... Tu sais, Donald Trump se donne beaucoup de pouvoir. Il commence à être très fortement contesté. Il y a certains qui présument que c'est peut-être pour avoir des ressources naturelles que le Venezuela a. Mélange
beaucoup
plein
de
choses.
Là,
beaucoup de pétrole là-bas,
évidemment.
Aux dernières nouvelles, Donald Trump devrait prendre la parole dans les prochaines heures. Il devrait prononcer un discours à la Nation demain soir. Ça vient de tomber. Allocution qui sera faite en direct de la Maison-Blanche à 21h. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations sur sa politique actuelle. C'est rare, par contre, qu'il explique ce qu'il fait.
Ouais.
C'est rare qu'il explique ses gestes, ses comportements, ses paroles. Mais demain, il faut s'attendre à avoir une prise de parole. Plus de détails seront à venir, mais de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Ça va être clairement à suivre, ce discours à la Nation de Donald Trump. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Une chose est sûre, c'est que ça ne va pas bien pour Donald Trump parce que le taux de chômage est en augmentation aux États-Unis. Il y a de plus en plus un clivage à l'interne des États-Unis. Il y a des grands ténors républicains qui l'ont laissé tomber. Les élections qui se sont produites, que ce soit en Virginie avec un nouvel gouverneur démocrate, même principe au New Jersey, la mairie de Miami, la mairie de New York qui appartient maintenant aux démocrates. Donc, le tapis lui glisse tranquillement sous les pieds. Et moi aussi, quand je parle de Donald Trump, je mets deux paires de gants blancs comme toi parce que c'est clairement pas un personnage politique que j'apprécie. Je ne trouve pas du tout que c'est un bon personnage politique et pour les États-Unis, et pour le Canada, et pour la scène internationale, juste de la façon qu'il gère présentement l'entente de paix avec l'Ukraine. Ça me sidère les jambes de savoir qu'on tente de laisser du territoire gagné par les Russes aux Russes en Ukraine. Donc, je suis complètement contre ça. Mais j'essaye de mettre des paires de gants blancs et de dire, OK, y a-tu des choses qui vont bien, mais présentement, tout s'écroule, autant sur la scène internationale qu'à l'interne au pays pour Donald Trump. Et ça, bien, ne pas le voir, c'est se cacher les yeux, tout
simplement. Mais ça semble être une politique très égoïste, très égocentrique, centrée sur, bon, c'est sûr, un retour revanchard de Donald Trump vu son dernier mandat, mais assurément dans une conviction, oui, d'amener beaucoup d'économies et d'autosuffisance au niveau des États-Unis, mais mal fait. C'est mal fait parce que en donnant ce territoire-là, par exemple, aux Russes, en donnant un petit peu d'aide aux Russes là-dedans, t'as toute l'Union européenne contre toi. Elle se prépare pour une semi-guerre, savoir d'être prêt, être conscient de notre armement, de nos soldats. Retour à la conscription aussi en Europe en ce moment. Je t'en ai parlé dans les dernières semaines. On fera un blitz, si tu veux, dans les prochaines semaines au retour de Noël. Mais Donald Trump, par sa politique, le fait d'une manière comme un chef d'entreprise. Et encore là, avec ses mœurs personnelles.
Oui.
Pas nécessairement humanitaires.
Tu as entièrement raison. Et les indicateurs économiques sont vraiment à son plus bas. On termine l'émission en vous mentionnant que le Canadien de Montréal reçoit les Flyers de Philadelphie ce soir. C'est le jeune Jacob Fallard qui va être devant le filet. Départ à domicile pour le jeune Fallard. On en parle demain matin. Est-ce que ça aurait été la bonne décision de Martin Saint-Louis? C'est à suivre. Les Flyers vont bien par les temps qui courent. 16 victoires, 9 revers et 6 revers en prolongation en fusillade. Et le joueur à surveiller, Trevor Zegras, l'ancien des Ducks d'Anaheim qui se refait une beauté. Le numéro 46 a 32 points en 31 matchs avec les Flyers. L'an passé, Pascal, il avait eu 32 points, mais en 57 matchs avec les Ducks d'Anaheim. Donc, ça va très bien pour l'ancien premier choix des Ducks en 2019. Comme quoi, des fois, un petit changement d'air dans le sport, ça fait du bien. Pascal CV, toujours un bonheur de faire de la radio avec toi. On se reprend, donne rendez-vous pour un 6 heures demain matin.
Oui.
Un 6 heures de radio qui commence à 6 heures demain matin dans Marceau le matin. Mais en attendant, c'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même. Passez une belle fin de journée sur nos ondes. Bye bye, guys.
À demain.